Salut à toutes, salut à tous, c'est Guillaume, et c'est encore pas le bon Guillaume. Et oui, parce que Guillaume Vendée est encore pas disponible ce soir, je me demande ce qu'il fout. Alors cette fois, il s'est rien pété, vous inquiétez pas, il est en très bon état, il est à Paris. Il est à Paris pour affaires, m'a-t-il dit. Je soupçonne de tremper dans des histoires louches de contrefaçon de peluche olympique ou un truc comme ça, bon. Écoutez, en ce qui nous concerne, vous écoutez toujours Tech Café, bien entendu, et c'est moi, Guillaume Poggiaspala, donc qui vais vous le présenter de manière totalement exceptionnelle ce soir, de manière décontractée aussi. Parce que ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir un invité de marque, hein, une figure de l'histoire du web français, un patriarche littéralement, il en a la barbe fournie, l'expérience et la maturité, c'est Pierre-Olivier Dibman. Comment vas-tu Pierre-Olivier ?
Salut, ça va très bien, et puis comme ça fait longtemps, je suis obligé d'ouvrir avec une blague et de préciser que je ne suis pas un invité de marque, puisque je suis un invité de Guillaume.
Effectivement, tu es un invité de nous-mêmes, tout à fait. Et tu as, alors, toujours, hein, tu es un aventurier, tu es l'aventurier du web, puisque en ce moment même, Tu n'enregistres pas voilà, comme tous les paysans normaux dans leur bureau avec un micro et un casque. Non, tu enregistres, je ne sais pas où d'ailleurs.
Je suis sur le stationnement du fort de Chambly dans mon Westphalia parce qu'effectivement, je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Et puis de toute façon, comme tout le monde se plaint de toujours la qualité de mon micro, j'ai décidé de donner une bonne raison de se plaindre.
Oui, voilà, parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu as déjà enregistré un podcast, je veux dire, juste chez toi, depuis, ça fait un petit moment que ce n'est pas arrivé, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, je suis très content que tu sois là ce soir, ton temps d'antenne se fait très rare, il est d'autant plus précieux. On va donc le savourer ensemble, chers auditeurs, avec cet épisode hebdomadaire qui va évoquer 1000 sujets passionnants et soulever, comme toujours, 1000 questions vertigineuses. Alors, vous voulez peut-être plus de détails, ok, donc c'est une grosse semaine dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors oui, un petit peu comme toutes les semaines. Meta a sorti son nouveau modèle de langage, hein, il va vouloir tenir tête à OpenAI. On parlera aussi de la métamorphose d'Atlas, le robot de Boston Dynamics qui se lance lui aussi sur le marché des humanoïdes, hein, comme quoi, Pierre-Olivier, il était vraiment nécessaire que tu viennes, hein, en tant que fondateur.
Pas mal.
Oui, ça part fort, hein, vous entendez, ça va être là, ça va être vraiment l'école du rire ce soir. On parlera aussi un petit peu de copyright, d'œuvres génératives. On aura également une rubrique complément sans IA, quand même, une rubrique complémentaire où on évoquera les aventures de TikTok, de Discord et Reddit, et un petit peu aussi de X, voire de XZ d'ailleurs. Mais bon, je peux pas commencer sans vous rappeler que Tech Café est un podcast totalement gratuit, qu'il est soutenu par sa communauté via Patreon, c'est totalement facultatif, bien entendu. Mais si vous aimez le podcast, si vous trouvez qu'il vous est utile, ou juste qu'il est fun, hein, c'est déjà pas mal. Et si vous voulez vous assurer qu'il dure encore longtemps et en toute indépendance, ou si simplement vous en avez marre de la pub en début d'épisode, vous pouvez devenir, pour un temps, un membre contributeur de la communauté Tech Café, voilà, rejoindre la grande communauté, et bien sûr, c'est sans engagement, c'est aussi possible de plafonner les dons, donc si vous avez les moyens, écoutez, pensez-y. Que vous ayez ou non les moyens, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter par contre à donner votre avis, vos retours et vos étoiles, de toute façon, nous sont précieux, et voilà, que ce soit les commentaires sur le site web ou sur le Discord du podcast, c'est vous qui voyez. Comme le veut la tradition, d'ailleurs, tradition qui s'est un petit peu imposée toute seule, hein, je l'avoue, avant de commencer, on va aussi évoquer quelques retours, justement, de la communauté. Avec un retour de Mathieu, qui est donc patriote, justement, et qui est chercheur, et qui nous dit que lui, il voit débouler les IA dans les labos. Il nous dit qu'il utilise déjà les chatbots pour le soulager de toutes les lourdeurs et redondances administratives. Pour rédiger des rapports, des demandes de financement, des rapports d'évaluation de communication, bref, ce qu'on appelle en termes techniques la paperasse, hein, je crois. Il me semble que je ne suis pas spécialiste, hein, voilà, mais je pense que ça lui libère pas mal de temps pour faire son travail de chercheur, en fait. Et bon, il utilise aussi pour le code beaucoup. Apparemment, il note un vrai gain de productivité avec Copilot. Et il l'utilise plus comme un autocomplete. Vraiment un autocomplete de luxe, hein, mais pas un assistant où tu lui demandes de faire un truc énorme de zéro et il le fait. Ça marche pas encore très bien. Donc on voit quand même qu'on a des avis qui sont un petit peu diversifiés voilà, sur l'usage au quotidien de ces outils. Selon les besoins, selon les domaines d'application, effectivement, ça peut varier manifestement pas mal. Et bon, forcément, c'est que le début, quoi. Est-ce que toi-même, tu utilises déjà des copilotes au sens large, Pierre-Olivier ? Je parle pas de ton esclave intérimaire, hein, je veux dire, est-ce que tu utilises des IA ?
On ne parle pas des sujets illégaux. Non, absolument, je suis un grand utilisateur de chatbots en général, au point que je me suis acheté le petit dev kit de NVIDIA, la dev board Jetson, pour pouvoir faire rouler mes choses en local. Moi, mon usage, c'est souvent de faire des petits scripts qui permettent d'automatiser des choses. Donc, dès que je vois que j'ai quelque chose de répétitif, je demande à ChatGPT ou à Gemini de me pondre un script en Python. Et l'idée, c'est que c'est toutes des trucs que moi, je sais faire. mais que je fais tellement peu souvent de Python que ça me prendrait une journée, peut-être même deux à faire. Alors qu'avec le chatbot, j'ai juste à relire et à corriger toutes les conneries qui sortent, parce qu'effectivement, il y en a quand même un paquet. Du coup, moi, ma tâche, elle fait 30-40 minutes et ça me permet d'automatiser plein de choses qu'avant, j'avais juste jamais le courage d'automatiser.
Non, ben voilà, mais c'est effectivement, hein, je pense que le code, c'est quand même un truc au bout. Alors, il faut toujours demander aux chatbots de faire des trucs qu'on sait faire, parce que paradoxalement, parce qu'il faut toujours être capable de les corriger, quoi. Hein. Il faut faire gaffe que, bon, voilà, ils peuvent introduire des vulnérabilités, faire du code qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais bon, pour un usage privé, ou si, effectivement, après relecture, ça peut être apparemment assez utile, j'ai l'impression que ça commence à se développer. On a un autre petit retour d'Erwan, qui s'est retrouvé à deux doigts de la crise de nerfs en m'entendant prononcer BID, le constructeur chinois de voitures. En fait, ça se prononce BYD pour Build Your Dream. Bon, mea culpa, mais enfin BID, c'est quand même plus marrant, donc je sais même pas si je vais changer, hein, rien que pour m'embêter. Mais bon, sinon, il est au Brésil, il nous précise aussi qu'Elon Musk s'est mis à dos le juge Alexandre de Moraes, qui est l'équivalent d'un juge de la Cour suprême là-bas, hein, comme aux États-Unis, voilà. Et donc c'est pas très futé, parce qu'apparemment, ils ont pas mal de pouvoir, ils peuvent le pouvoir de lancer un petit peu tout ce qu'ils veulent comme procédure contre lui. Mais bon, on verra bien. On enchaîne aussi avec un commentaire de Mika qui s'amuse de l'humour des noms trouvés par les chercheurs pour leur modèle. Alors c'est vrai qu'avec Llama, donc c'est deux L A M A, donc pour LLM, hein, on a eu un petit peu tous les animaux qui sont passés. Puis dernièrement, on a aussi eu Mamba. Et il y a une raison pour laquelle Mamba s'appelle Mamba. Écoutez les précédents épisodes pour la connaître. C'est l'épisode, j'en dis pas plus. Et la dernière fois, on parlait de Griffin l'hybride, donc il évoque aussi les noms de distribution Linux. Et me fait une remarque que j'aurais pu citer le film Ready Player One, dans le dernier épisode à propos des barbus en t-shirt, et je te l'annonce, Mika, je citerai jamais les Ready Player One dans un épisode parce que je trouve que ce film est une bouse. Enfin, le générique du dernier épisode apparemment a inspiré Carole, qui nous a fait trois versions d'une chanson rap à la gloire de Tech Café avec Suno et AI. Et c'est pas mal du tout, alors c'est vrai que c'est addictif ces trucs, hein. Et donc je passe encore un petit peu de temps sur Udio, et j'annonce même en avant-première que je prépare un supplément spécial. Qui sera pas là cette semaine d'ailleurs, ce sera pour le mois de mai probablement, j'en profite pour l'annoncer ici. Je serai pas là la semaine prochaine, mais le spécial est en train d'être créé. Bon, comme on parle de musique générative et de contenu génératif, on va continuer un petit peu sur le sujet et commencer peut-être notre première rubrique, une rubrique évidemment sur l'intelligence artificielle, what else, qui cause, des IA qui causent et des robots qui bougent, voilà, tout ça. Des robots qui bougent très bizarrement d'ailleurs. Est-ce que t'es d'accord, Pod? Est-ce qu'on peut se lancer?
Allons-y, c'est parti.
Parfait. Donc, on va être réaliste, hein, la musique générative devient suffisamment bonne pour devenir un sujet de discussion, une préoccupation majeure, hein, comme c'est déjà le cas pour la création graphique et pour le texte. Est-ce que je suis le propriétaire d'une chanson générée avec Suno ou Udio? Eh ben oui et non. En l'occurrence, je peux l'utiliser un peu comme je veux, y compris commercialement, mais je dois mentionner que c'était fait par Udio. Alors, si j'écris les paroles, comment ça se passe? Et si une IA écrit les paroles et que je les arrange un petit peu, que je les modifie, que j'en génère plein, que je finis par créer un texte original, mais avec l'assistance de cette IA, il se passe quoi? Ben, c'est pas évident du tout, et c'est exactement ce qu'a fait Elisa Shoup, hein, une sexagénaire ex-militaire de l'armée américaine, qui a publié un livre en utilisant ChatGPT. Bon, elle l'a soumis au bureau du copyright américain, bon, le bureau du copyright l'a envoyé bouler, hein, tout simplement. Mais bon, elle a fait appel, avec l'appui d'un cabinet d'avocats, et finalement avec, d'ailleurs, même c'est la Policy Clinic de Brooklyn Law School, parce qu'ils prennent des cas pro bono, donc comme ça, elle n'a pas dû payer, parce que bon, forcément, c'est pas les avocats aux États-Unis, c'est pas donné. Elisa est handicapée, donc c'est, voilà, l'argument, justement, c'était que ChatGPT l'a aidée un petit peu comme une sorte de prothèse. Par ailleurs, elle a fourni des documents qui montrent qu'elle a lourdement changé le texte, et elle affirme qu'elle travaillait parfois 14 heures par jour sur son livre, pendant combien de jours, ça, voilà, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ben, le bureau du copyright a fini par lui accorder les droits de son livre, mais pas complètement. Donc elle a un copyright sur son livre, mais c'est pas si évident, parce que c'est vrai que c'est difficile de déterminer quelque part un seuil de travail, de transformation nécessaire pour qualifier une œuvre d'original, tu vois, et contrôler que ce seuil est atteint, c'est horriblement compliqué, et c'est pourtant exactement le boulot quotidien du bureau du copyright, hein, parce que voilà, désormais il reçoit des centaines de demandes pour des œuvres qui sont, bah, en partie au moins générées par des trucs, hein, par des IA variés, et ça c'est chaque mois, quoi. Et bon, du coup, Elisa le prend comme une victoire, mais elle a quand même eu le minimum syndical. En réalité, son livre, dans son ensemble, est protégé, donc tu peux pas prendre son livre et le foutre, voilà, sur Amazon et dire que c'est le tien, d'accord, mais par contre, c'est parti. C'est-à-dire, tu peux prendre des paragraphes entiers de son livre, ils peuvent être repris tels quels, ils peuvent être repris et republiés dans d'autres œuvres sans problème. Et donc, elle a essentiellement la même protection que si elle avait publié une anthologie de poésie, des poésies qu'elle n'aurait pas elle-même écrites. Alors, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Je sais pas si t'as une idée sur le sujet, toi, Pod.
Non. Oui et non. Mais non. c'est le nom qui domine. Je vais expliquer pourquoi. Moi, ce qui m'embête avec cette première décision, alors bon, on dit première, au moins, en tout cas en termes de médiatisation, parce qu'il y a peut-être eu d'autres verdicts à certaines échelles plus locales ou autres. C'est que pour moi, le cas de figure est pas extrêmement clair. Elle a utilisé ChatGPT, qui est un outil commercial disponible en ligne, qui a ses propres licences d'utilisation, etc., etc. Je sais pas si la décision de pas donner de copyright va rester dans le temps, parce que bon, c'est toujours des choses qu'on peut faire appel, que certaines juridictions peuvent se déclarer supérieures, etc., etc. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va beaucoup dépendre de toute façon des conditions d'utilisation de ChatGPT. Puis OpenAI pourrait très bien dire en utilisant ChatGPT, on renonce à tout claim de copyright ou ce genre de choses. Et ils en auraient le droit de la même façon que quand tu sous-traites une partie de ton travail, ou tout ou partie de ton travail, si créatif qu'il soit. Tu peux toujours avoir un contrat qui dit que les droits d'auteur reviennent au sous-traitant parce que c'est lui qui l'a fait, ou qu'il te cède les droits d'auteur, ou que les droits d'auteur sont abandonnés tout simplement et qu'aucune des deux parties ne peut les réclamer. Tout ça, pour moi, se règle avec des contrats. Et la situation, elle est simple, entre guillemets. En revanche, si le cas avait été qu'elle avait utilisé un modèle de génératif de langage que elle a installé sur sa propre machine, et ben là, moi, je suis beaucoup plus intéressé à avoir un avis juridique, parce que pour le coup, on n'est plus dans cette histoire de sous-traitance, on est vraiment sur, c'est un outil, et donc cet outil-là, là, je sais pas, voilà, il y a beaucoup plus matière à débat.
Écoute, tu me fais en plus une transition merveilleuse avec les modèles de langage open source, hein. Magnifique, puisque oui, effectivement, on peut installer des modèles de langage sur son ordinateur, c'est même pas extrêmement compliqué, on a même fait un épisode dessus, et vous avez le choix, il y a même énormément de choix en réalité sur les modèles donc, que vous pouvez installer, et bien lesquels vous pouvez discuter. En tout cas, c'est vrai en anglais, c'est un peu moins vrai en français pour le coup, mais bon, quand même. Et du coup, effectivement, la question va se poser probablement de plus en plus, puisque on parle de chatbot, on ne peut pas passer à côté cette semaine de la grande annonce de Meta, hein, qui est la sortie de Llama 3, avec Mark Zuckerberg lui-même, hein, qui a donné des interviews et tout et tout. Et donc, c'est son tout dernier modèle de langage. La famille Llama, c'est une famille dont vous avez évidemment entendu parler ici, c'est très connu, très prisé des amateurs d'open source, puisqu'en fait, c'est une famille libre. On peut librement télécharger plein de variantes de Llama 1 et 2, les faire tourner chez soi, pour peu qu'on ait le matériel pour, évidemment. Et c'est aussi le cas pour Llama 3, qui se paye le luxe d'être a priori un modèle très puissant, si ce n'est peut-être même le plus puissant, enfin en tout cas les plus puissants du marché. Alors c'est une nouvelle très importante pour Meta aussi en premier lieu, bien entendu, qui va d'ores et déjà s'en servir pour ses propres chatbots, enfin, pour son propre chatbot même grand public, qui a désormais un site dédié, hein, puisqu'il y a maintenant un site qui s'appelle meta.ai et qui intègre donc un générateur d'images, et puis bon, un chatbot, c'est vraiment très analogue clairement à ChatGPT, et je pense que voilà, c'est pas encore disponible en France, hein, vous pouvez toujours y aller avec un VPN si vous voulez, mais bon, clairement c'est une réponse à OpenAI. Si Llama 3 est aussi bon que ce qui est annoncé, c'est même inquiétant pour lui d'ailleurs, et peut-être pour Google aussi. Alors c'est toujours délicat de quantifier vraiment les performances des modèles de langage, hein, parce que voilà, c'est du texte, alors il y a plusieurs métriques. Parfois ça correspond pas tout à fait au ressenti des utilisateurs, mais bon, au test d'intelligence standard, le chiffre annoncé par Meta, les chiffres annoncés par Meta sont assez impressionnants. Hein. La version 70B, alors 70B c'est 70 billions, donc 70 milliards de paramètres, elle est au coude à coude avec Gemini Pro 1.5 quand même, et avec Claude Sonnet, qui est le point moyen de chez Anthropic. Et le truc, c'est qu'il y a mieux. Il y a mieux en approche. En réalité, on a eu cette semaine une sortie partielle, en avant-première si vous voulez, de deux variantes de Llama 3, donc il y en a une petite et une grosse. Le vrai Llama 3, lui, il est beaucoup plus poilu, il est aussi beaucoup plus puissant, on parle de 5 fois plus gros que la version qui vient d'être publiée, hein, et il serait pas loin du niveau de Claude 3 Opus de GPT-4 Turbo. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas fini. Il est pas fini, il est pas cuit. Il est toujours en train d'être entraîné en ce moment même. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans les annonces qui sont faites par Zuckerberg. Déjà, on sait que Llama 3 a été entraîné plus, peut-être, qu'aucun autre modèle de langage avant lui, hein, et que malgré ça, ils n'ont pas fini, ils ont encore de la marge. Alors précisément, ils ont vu à peu près 15 000 milliards de mots. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Hein. Pour vous donner une idée, un pavé de Victor Hugo comme Les Misérables, c'est 500 000 mots. Alors, c'est un gros truc, Les Misérables. Hein. La grande majorité des bouquins font moins que ça. Mais c'est commode. Bah, ça tombe juste à 500 000, c'est cool. Et donc, les Lama 3 ont vu, en gros, bah, l'équivalent de 30 millions de fois Les Misérables. Donc, ça fait un gros lecteur, quand même. Hein. Et bon, c'est 7 fois et demi plus que Lama 2, surtout. Et malgré tout, Lama 3 70B continuait à apprendre des trucs. Dans le sens où sa courbe de loss, comme on dit, hein, continuait doucement de baisser. Alors, courbe de loss, en réalité, c'est un sens qui est assez intuitif, finalement, puisque c'est la mesure des erreurs que fait le modèle au fur et à mesure qu'on est en train de l'entraîner, au fur et à mesure qu'il voit passer des exemples pendant son entraînement. Alors, au début, bah, le modèle, il sait strictement rien faire, donc forcément, la courbe, elle part de très très haut, puisqu'il fait énormément d'erreurs, il sait rien faire. Et bon, typiquement, elle descend assez vite, au début, parce que le modèle apprend les trucs les plus faciles à comprendre, entre guillemets. Puis ensuite, les trucs moins évidents sont assimilés petit à petit, ça prend plus de temps, et ça finit par ne plus descendre, ou alors, bah, alors ça descend très 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 lentement, et on finit par débrancher parce qu'on n'a plus d'argent, quoi. Donc, dire que le Lama 3 70B apprend encore, ça veut dire que sa courbe continuait de descendre. Doucement, mais même après que le modèle ait vu passer 15 000 milliards d'exemples, bah, ça continue quand même de descendre. En fait, ils l'ont débranché pour libérer les ressources pour le Lama 4, hein, tout simplement, mais il aurait pu être encore un petit peu meilleur. Donc ça explique que le gros modèle, bon, le monstre à 400 milliards de paramètres, hein, il est toujours en train d'être mijoté à feu doux. D'une part, ça prend beaucoup de calculs pour entraîner un poilor pareil, hein, et bon, si 70 milliards de paramètres, il n'est pas saturé, bah, il faudra y aller pour un truc qui en fait 400, hein, 6 fois plus gros quand même. Et bon, mine de rien, c'est une information importante parce qu'elle explose la règle dite du chinchilla. Alors, en machine learning, et en particulier dans le domaine du langage comme ça, il y avait une règle empirique, hein, complètement, qui était la règle dite du chinchilla, en référence à un ancien modèle de Google qui s'appelait chinchilla. Et selon cette règle, il fallait entraîner un modèle sur un corpus qui était proportionnel à sa taille. À la taille du modèle, hein, je veux dire. Précisément, le corpus devait être, donc le nombre d'exemples devait être 20 fois le nombre de paramètres du modèle. Donc pour un modèle de 70 milliards de paramètres, ben, il aurait fallu donner donc 1400 milliards de mots. Or, ils sont allés plus de 10 fois plus loin que ça, et ça apprend toujours. Donc le chinchilla, il s'est fait rouler dessus, pauvre bête. Et voilà, donc il va falloir revoir un petit peu tout ça. Et puis il va falloir trouver aussi beaucoup, toujours plus de données, quoi. Hein. Voilà, tout ça a été fait sur des énormes clusters de H100, par dizaines de milliers. Entraîner un truc, entraîner des modèles de ce calibre, ça coûte des centaines de millions de dollars. Hein. Et d'un point de vue purement pratique, ce qu'on voit très clairement, c'est Meta se mettre en concurrence frontale avec OpenAI. Dans quelques semaines, dans quelques mois tout au plus, hein, il devrait avoir un chatbot gratuit qui serait aussi bon que GPT-4, hein, avec son site dédié, en plus d'une intégration dans tous ses produits. Sachant que les versions de Lama 3 vont se succéder, il y aura d'autres tailles, il y aura des modèles multimodaux aussi qui vont arriver dans les semaines à venir. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tous ces Lama 3 seront aussi open source. Et pour les amateurs qui veulent adopter un Lama à la maison, ben les Lama 3 sont même un poil plus rapides à faire tourner, puisqu'ils ont un nouveau tokenizer, puis un nouveau dictionnaire de mots, si vous voulez, qui est plus grand, et puis un mécanisme d'attention optimisé. Donc, Meta AI, d'ailleurs, devient, en l'occurrence, le véritable Open AI, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Pod ?
Ouais, clairement, c'était une des ambitions annoncées de Zuckerberg. Ce qu'il faut pas oublier, parce que on a tendance dans l'univers des médias à être très monocentrique, et c'est vrai que tout l'arc Zuckerberg et son nouveau Second World, c'est un peu éclipsé les efforts que Facebook avait déjà commencé à mettre en place avec des labos d'AI à Montréal, à Paris, évidemment à San Francisco, cela va sans dire. Et aujourd'hui, que le focus des médias est sur l'intelligence artificielle, ben on voit que les efforts de Facebook portent leurs fruits. Mais c'est vrai qu'il a été longtemps, c'est une entreprise qui a été longtemps dans l'ombre d'OpenAI, de son charismatique, Sam Altman, qui a la vertu d'avoir l'air un petit peu plus comme le commun des mortels, comparé à Tonton Marc. Mais voilà, pour moi, c'est pas une surprise, c'est pas un secret non plus. Ils ont travaillé fort, donc ça se paye. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est la timidité des acteurs comme Google, qui eux aussi ont travaillé fort et depuis probablement plus longtemps que les autres. Où ce qui sort est non pas que ce soit mal, hein, c'est d'un niveau tout à fait très respectable, mais on a l'impression qu'ils se retiennent. On a l'impression qu'ils sortent pas tout ce qu'ils ont, ou alors qu'ils ont tout simplement pas, c'est une possibilité aussi, le niveau d'output qui correspond au niveau d'investissement qui a été fait au fil des années.
C'est possible, effectivement. C'est assez étonnant de voir que ouais, alors Google est, disons, médiatiquement parlant, un petit peu en seconde position. Alors que bon, techniquement, c'est pas forcément aussi clair que ça. Mais il y a quand même aussi, enfin, en tout cas, évidemment, parmi les gros acteurs, il y a aussi Microsoft hein, qui est au milieu et qui travaille aussi et qui a lui aussi de sortir un nouveau modèle de langage qui est un petit peu particulier cette semaine. Alors, il est tout chaud, il vient de sortir du four, hein, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai vu le truc aujourd'hui. C'est un nouveau modèle c'est un nouveau modèle qui est tout petit. Enfin, en tout cas, c'est une famille de modèles qui est tout petit. Il vient de sortir son Phi 3. Alors, comme son nom l'indique, c'est le successeur de Phi 2, hein, dont il reprend en gros la philosophie. Et la philosophie des Phi, c'est d'entraîner sur moins de données, mais des données de qualité optimale, entre guillemets, autant que possible. Alors, comme son nom l'indique pas, Phi 3, c'est trois modèles en réalité. Enfin, si, peut-être ça l'indique, mais bon. Donc, il y a un modèle minuscule qui tourne sur un téléphone ou sur n'importe quelle patate bureautique. Il y a un modèle petit, mais qui est donc deux fois plus gros et qui tourne un petit peu partout aussi, hein, et puis un modèle moyen, qui est donc quatre fois plus gros que le Phi 3 mini. Alors, c'est des peaux à plumes, de toute façon, parce que 3, 8, 7 et 14 milliards de paramètres, ce sont des trucs qui sont incroyablement légers par rapport au Llama ou au Mixtral, et évidemment au GPT. Donc, Phi 3, sur le papier, c'est un modèle qui est très impressionnant, puisqu'il affiche des scores au test classique, hein, parce que bon, tout le monde utilise les mêmes scores, qui font un peu froid dans le dos, en tout cas si t'es un concurrent, puisque le modèle le plus petit, il est vraiment minuscule, je rappelle, hein, il ferait un peu mieux que Mixtral 8x7b, qui fait 40 milliards de paramètres, ce qui veut dire que le joueur français, finalement, se fait distancer par un poids mouche qui est 10 fois plus petit que lui. Et c'est vrai que c'est un coup dur pour l'ego, hein. Mais bon, peut-être c'était aussi un petit peu sur le papier. Alors en réalité, si les Phi 3 affichent des scores qui sont tous très impressionnants, on va dire questionnaire standard, hein, il se pourrait quand même que vous les trouviez pas forcément foufou à l'usage tout le temps. Pourquoi ? Parce que les grands tests en question vont vous donner une idée de si oui ou non le modèle a un minimum de culture générale, s'il est capable de raisonner un petit peu, de faire des calculs pas trop durs, etc. Par contre, ça se voit un peu dans les tests d'ailleurs, hein, ça se voit dans certains tests, Phi 3 ne peut pas, matériellement, hein, connaître autant de choses qu'un modèle vraiment plus gros. Ça se voit dans le test qui s'appelle le Trivia QA, donc qui fait du trivia, en fait, assez, voilà, c'est des tests de culture générale, quelque part. Et donc Phi 3 mini, donc vraiment le plus petit, on voit qu'il est quand même très en retrait, alors que sur le test qui s'appelle GMS 8K, qui en gros teste le calcul, quoi, les petits problèmes de maths, ben il va le battre. Donc Phi 3 en plus parle exclusivement anglais, alors qu'on a un petit peu l'habitude quand même que ces chatbots soient polyglottes, hein, et Mixtral d'ailleurs, est très bon dans au moins dans les 5 langues européennes, et puis il parle correctement encore plus d'autres de langues, comme le japonais par exemple. Et c'est presque rassurant, si un modèle pèse 2 gigaoctets sur mon disque dur, et qu'il y en a un autre qui en pèse 40, ben, y a quand même une différence. Bon voilà, il n'y a pas forcément de magie, quoi, quelque part, 2 gigaoctets c'est 2 gigaoctets, quoi, tu vois, à un moment l'info elle y est pas. Donc Phi 3, il est aussi bon, entre guillemets, que GPT 3.5 sur le papier, sur ces tests-là, en tout cas sur la plupart de ces tests. Mais oui, c'est vrai, mais ça va dépendre quand même de ce qu'on lui demande. Phi 3, il est quand même intéressant, parce que ben, on n'a pas forcément besoin tout le temps d'un modèle qui soit omniscient, qui domine toutes les questions, voilà, qui domine question pour un champion, qui soit super polyglotte, c'est pas forcément le but tout le temps. Et puis, s'il ne connaît pas une réponse, il pourra toujours faire comme nous, il pourra toujours demander à Google, utiliser des outils, etc. Ce que ça veut dire, Phi 3, ça veut dire qu'on peut espérer, avec un modèle qui est vraiment tout petit, et qui donc tourne vraiment vite sur des téléphones modernes, hein, avoir des assistants qui soient assez malins, qui ne soient pas complètement idiots, vraiment, et qui soient quand même capables de se rendre utiles. Et si jamais ils ne savent pas faire quelque chose, si jamais ils manquent de connaissances, ils pourront toujours aller chercher cette connaissance ailleurs, ou faire appel à d'autres IA beaucoup plus grosses. Et c'est un petit peu ça qu'on voit un petit peu se dessiner avec ces modèles-là, qui sont vraiment des poids-plumes, quoi. Donc c'est quand même intéressant à noter aussi. Est-ce qu'on passe à Vaza ou est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur les chatbots, Pierre-Olivier ?
Vas-y.
Vaza, mais oui, évidemment. Un article de recherche de Microsoft a fait beaucoup de buzz cette semaine, et c'est vrai, c'est très visuel, c'est Vaza. Alors, loin d'être fine et sèche, hein, cette recherche est au contraire riche et pleine d'émotions. Les auditeurs assidus de Tech Café se rappellent peut-être d'un truc dont j'avais parlé, qui s'appelait Emotalker, qui faisait parler et même chanter n'importe quel visage. Et bien là, le principe, c'est exactement le même, avec un petit plus, parce que maintenant, c'est carrément en temps réel. Alors, Vaza, c'est une méthode qui utilise une image de visage, alors n'importe quoi, vous prenez Gabriel Attal, si vous voulez, et un clip sonore de quelqu'un qui parle ou qui chante, donc quelqu'un qui chante l'international, par exemple. Et puis avec ça, Vaza va produire une vidéo de Gabriel Attal qui chante à l'international, et en y mettant tout son cœur, tu vois, avec ses lèvres et sa tête qui vont bouger, ses expressions faciales qui suivront les émotions de l'audio, il va cligner des yeux, son regard pourra même se perdre un petit peu dans le lointain, inspiré qu'il est par la solennité des paroles. Bon, vous avez compris, Vasa peut prendre une photo de n'importe qui et lui donner vie, voilà, en lui faisant dire n'importe quoi. Et de manière totalement photoréaliste. Et alors, vous allez voir évidemment les démos sur Internet si vous n'avez pas déjà vu, c'est terrifiant. Techniquement aussi, c'est assez intéressant quand même, parce que, en fait, Vasa, c'est un système de double c'est un système double de génération de vidéos. Donc, déjà, c'est un générateur de vidéos, hein, clairement, c'est vraiment un générateur de vidéos, un petit peu comme Sora, sauf qu'il fait des vidéos très très spécifiques de têtes qui parlent, et puis c'est tout. C'est quand même un générateur vidéo, et il est contrôlé par des signaux qu'il produit lui-même, qu'un module produit pour lui. Alors, le modèle, en fait, il commence par écouter le clip audio, et il va en déduire une représentation abstraite des expressions faciales. C'est-à-dire, il va inférer, voilà, comment la tête bouge quand vous parlez, comment vous allez vous bouger, évidemment, vos lèvres, les yeux, etc. Donc, cette représentation va servir de contrôle au générateur de vidéo, qui va reconstruire l'image que vous lui donnez en entrée, mais en mouvement avec ces trucs-là. Donc cette représentation, en plus, elle est très bien fichue, parce qu'on peut l'utiliser et on peut modifier à la main ses composantes, en fait, pour forcer des mouvements. Par exemple, on peut choisir des points de vue, on peut choisir des émotions, on peut forcer le visage à sourire, par exemple, ou alors on veut le voir exclusivement de face ou exclusivement un petit peu de trois quarts. Ce sont des contrôles qui sont lisibles, en quelque sorte, et qui sont donc utilisables par ailleurs. Donc, ça marche même sur des visages qui sont non photoréalistes, ça marche sur des dessins, sur des peintures. La technique est utilisée aussi... la technique est utilisée, finalement, elle est intéressante aussi parce que, apparemment, la quantité de calcul, finalement, requise n'est pas énorme, ni pour l'entraînement, ni pour l'inférence, c'est-à-dire pour l'utilisation, quoi. Donc, sur une RTX 4090, donc c'est une GPU qui est chère, hein, c'est vrai, mais qui est quand même grand public, hein, c'est pas du matériel professionnel, vous pouvez générer la vidéo assez vite pour faire du temps réel. Donc on atteint les 40 FPS, hein, 512 par 512, donc c'est largement de quoi simuler un appel sur Zoom, quoi. Et en ce qui concerne la quantité de données d'entraînement, bah dans l'article, il est marqué qu'ils ont utilisé VoxCeleb 2, qui est donc une base de données publique, hein, et qui contient 2000 heures de vidéo. 2000 heures de vidéo, c'est pas tant que ça en réalité. Je veux dire, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas énorme, c'est même assez peu, et même si Microsoft d'ailleurs ne publie ni le code ni le modèle, en partie pour des raisons éthiques, hein, clairement, il n'est pas exclu que ce soit reproductible de manière relativement accessible, finalement. Donc en conclusion, bah, on y est, on peut donner un visage à nos chatbots, à nos chanteurs, nos chanteurs artificiels, et ils vont bouger de manière crédible, de manière naturelle. Donc demain, ChatGPT pourra avoir le visage que vous voulez, et puis parler avec vous comme un pote sur Skype, hein, vous pourrez avoir une téléconsultation qui se fera avec un toubib robot ou une infirmière robot, comme ça, qui aura un visage, une voix, une expression rassurante et parfaitement humaine. Et je parle même pas des petites copines artificielles, bien entendu. Hein. Alors voilà, Pod, est-ce que tu vas enfin pouvoir te créer un chatbot de toi qui assisterait aux visioconférences qui te saoulent ? Ça serait pas mal, ça. En plus de ton camping-car, non ?
Tu sais que moi, j'ai passé le permis de conduire très tard, et puisque c'était pendant la pandémie, et que notamment parce que je m'étais toujours promis de passer mon permis seulement si je prévoyais de m'acheter un van. Peu importe, le fait est que l'ayant passé pendant la pandémie, et je suis sûr que plein d'auditeurs ont vécu cette expérience là aussi, on s'est retrouvé à avoir les cours sur Zoom. Rien de d'extrêmement exceptionnel, je pense que ça a été le quotidien aussi de beaucoup de gens qui assistaient à leurs cours ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, il y a rien de spécial à ça. Mais il se trouve que les cours de conduite, c'est souvent le soir, pour plein de bonnes raisons. Les jeunes sont à l'école, les plus vieux travaillent, et puis les profs d'auto-école, apparemment, c'est des humains normaux, ils aiment bien avoir un week-end. Donc voilà, c'est les cours ont lieu le soir. Moi, il se trouve que je venais d'avoir mon plus grand et que, comme la plupart des enfants, ça vient pas avec un manuel de comment dormir, parce que comment dormir, c'est aussi du machine learning, du human learning. Ça se fait avec suffisamment d'échantillons et de répétitions. Bref, tout ça pour dire que d'un côté, j'avais un enfant à coucher que je sais absolument pas combien de temps ça prend avant de réussir à l'endormir, et de l'autre, un cours de conduite où honnêtement le contenu est de qualité variable. Fait que j'en ai fait plein des boucles de moi en train d'osciller la tête ou de faire des choses comme ça pour pouvoir les jouer sur Zoom avec une webcam virtuelle. Alors évidemment, ce genre d'outil, ça m'aurait incroyablement facilité la vie, ça m'aurait peut-être même permis de suivre le cours avec des écouteurs, écrire, si jamais je me faisais interroger, écrire la réponse et que ça génère la réponse dans la vidéo, ça aurait été parfait. Parce que bon, au final, j'ai jamais été pris, mais j'aurais pu être pris super facilement si le prof m'avait posé une question nominative. Donc voilà, expérience à ne pas reproduire, bien évidemment. mais ouais, ces outils-là, c'est formidable. Moi, ce que je retiens aussi, surtout, c'est que c'est incroyable le nombre de parallèles qu'on peut faire entre l'intelligence artificielle et le développement des capacités cognitives humaines et en particulier d'apprentissage de la langue, de la lecture des émotions sur les visages, ce genre de choses. Parce que c'est des choses qu'on voit quand les enfants grandissent, mais c'est aussi des choses qu'on voit sur nous-mêmes quand on est plongé dans un environnement dont on ne connaît pas du tout la langue. On voit quand même très vite que les intonations... on peut nous permettre de déduire un sens très général, certes, d'une phrase. Et inversement, quand on entend une phrase, on est aussi capable d'en déduire les expressions faciales probables de la personne qui parle, qu'on a au téléphone, etc., même si on ne comprend pas la langue. Et pour moi, tu vois, c'est un petit peu l'analogie avec le modèle derrière Vasa. C'est qu'il a extrêmement... peu de données sur lesquelles il a travaillé et pour autant il arrive avec des résultats qui sont satisfaisants parce ouais. que voilà il y a des choses qui demandent pas tant d'efforts intellectuels que ça finalement.
Oui bah en fait c'est malheureusement ce que moi c'est un petit peu la réflexion que je me fais un petit peu tout le temps en ce moment en testant les IA, c'est que ça nous montre que finalement on n'est pas si compliqué que ça, peut-être. Enfin, on est peut-être moins compliqué que ce qu'on imagine. Ça pourrait tourner à la révolution copernicienne, ça, dans une certaine mesure, mais bon. Et d'ailleurs, justement, quelles autres applications on pourrait trouver à Vasa, voyons, hein, parmi les 1000 premières, celle d'usurper l'identité d'un homme politique, évidemment, ça, c'est le genre de truc, et bon, ça va arriver. Bon, alors, évidemment, d'ailleurs, 2024 est une année spéciale, hein, c'est une année massivement électorale, avec des scrutins de première importance dans de grands pays, hein, comme l'Inde et les États-Unis. Et tout ça alors que les outils d'intelligence artificielle sont démocratisés, enfin en tout cas c'est le début de la démocratisation comme petit peu, et dans le monde entier. Ils sont utilisés pour faire des faux politiques d'ores et déjà, maintenant, hein, ça y est. Hein. Alors ça peut être à peu près inoffensif, hein, comme un maudit qui chante, encore que bon, rien n'est vraiment inoffensif finalement. Ça peut être aussi un petit peu plus insidieux, un peu plus caché, comme les Nièces Le Pen hein, qui n'existent pas, dont on a parlé la dernière fois. En tout cas, c'est déjà en route, et il y a un site qui s'appelle Rest of World, qui propose voilà, des news, tout ça, mais qui se propose aussi de suivre... Ben, un petit peu toutes les occurrences de deepfake au sens large hein, dans la sphère politique mondiale. Les pauvres, voilà, ils ont bien du courage, donc chapeau les mecs. Et bon, il y en a déjà pas mal. Sur leur donc 2024 AI Election Tracker, ils ont Donald Trump qui promet de faire sortir de prison Imran Khan, qui est le premier ministre pakistanais. Au Mexique, on génère des images de faux gobelets Starbucks qui mettent à l'honneur qui se mettent à l'honneur du candidat Galvez à l'élection présidentielle. Or c'est faux, hein, vous voyez Starbucks faire de la politique, sérieusement? Non, bien sûr que non. Donc, ça peut vraiment prendre des formes très, très détournées, quoi. Hein. Les faux gobelets Starbucks politiques, c'est quand même assez rigolo, quoi. Enfin, moi, j'y aurais pas pensé. Mais bon, parfois, c'est évident que c'est des faux, comme pour la résurrection de Jayalalithan, une figure de la politique tamoule. Hein. Bon, désolé, je suis pas vraiment spécialiste. Mais bon, ils l'ont ressuscité quelque part, qui faisait un vibrant discours comme ça, destiné à motiver les troupes de son parti. Et bon, voilà, 2024, c'est peut-être la première vraie année de propagande IA, quoi, hein, où on va avoir de la propagande IA un petit peu partout. Et puis donc, on va avoir de quoi s'amuser, il n'y a pas de problème. Et bon, puisqu'on parle de ressusciter les morts, là, ça ne touche pas que les figures politiques, ça. En fait, il y a même une tendance qui est en train d'émerger, même si à ma connaissance, c'est pas trop en France, quand même, c'est de créer des chatbots plus ou moins complexes et sophistiqués de personnes de sa famille hein, décédées. Alors, on a un peu parlé pour les États-Unis, il y avait eu quelques cas, bon, mais le truc, c'est que ça semble aussi être une petite tendance en Chine. Il semble qu'il y aurait de plus en plus de Chinois qui auraient recours à des services d'entreprise, hein, qui leur proposent des résurrections, simplement par chat ou parfois voilà, avec audio, et avec une voix d'ailleurs clonée sur celle du défunt, hein, parfois même en vidéo, si possible, s'il y a assez de matériel. Donc, il est possible de demander même des fois ce que le défunt assiste à ses propres funérailles. Oui, je sais, c'est chelou, je sais. Ces services voient un pic de fréquentation autour de la période de... Attention, Xiongming. Ça s'écrit Kingming, mais bon voilà, ça se prononce un truc comme Xiongming, parce que même avec la prononciation YouTube, j'ai quand même beaucoup de mal, désolé. Donc c'est, si j'ai bien compris, c'est un petit peu leur Toussaint à eux. Et donc, pour 7$ par mois, vous pouvez discuter de vive voix avec une réplique plus ou moins bien foutue de votre papy, quoi. Hein. Les utilisateurs sont bien conscients qu'évidemment, on est quand même loin du compte, hein. Mais il semble commencer à y avoir un public. Et maintenant qu'on peut créer des visages qui bougent de manière naturelle uniquement avec de l'audio, qui peut être parfaitement être génératif par ailleurs, je vous laisse imaginer à quel point voir le visage de votre proche décédé, bouger et parler avec sa propre voix, hein, vous parler comme ça doit être perturbant. Surtout s'il raconte des conneries et s'il n'a pas exactement la même personnalité que votre proche, ce qui est probable. Donc, voilà, question habituelle sur ce sujet. Est-ce que tout ça, c'est très sain? Est-ce que ça n'entre pas... Enfin, est-ce que ça n'entrave pas le travail de deuil? Bon, des questions super sympas, hein, des questions que je te pose. T'es content d'être venu, hein, pod? Je t'ai ravi, je sens.
Ouais, que des questions faciles, c'est parfait. Bon, évidemment, le parallèle facile, Black Mirror, mais aussi beaucoup de films, en particulier des films cyberpunk. Plus profondément aussi, c'est parce que je veux dire, là on se parle de modèles et de hardware avec des capacités finalement limitées. La question plus profonde va se poser dès lors qu'on aura atteint des modèles extrêmement perfectionnés sur du hardware extrêmement performant. Qui on est? Est-ce qu'on est juste la somme de nos souvenirs? Auquel cas, est-ce qu'on parle vraiment à une machine ou est-ce qu'on parle à cette personne qui est décédée? Est-ce qu'on est quelqu'un ou quelque chose de particulier? Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on est toujours la même personne quand on se réveille le matin ou quand on se réveille d'un coma? Et la question va continuer de se poser au fur et à mesure qu'un autre champ de la science avance, et c'est la biologie en particulier avec ses applications médicales. Si on fait une transplantation de tête, comme on essaye de faire depuis des années, qui est cette personne? Donc voilà, pour moi, je répondrai à absolument aucune de ces questions parce que tu me tends des pièges avec des grosses questions. Donc je réponds avec plein d'autres grosses questions, c'est fascinant.
Et on termine sur la greffe de tête, mais moi je persiste à dire qu'en fait c'est une greffe de corps.
Oui, 100% d'accord.
Mais non.
Mais comment dire, le consensus médiatique est différent si tu tapes dans Google, mais absolument. Je suis 100% d'accord avec toi que les premiers journalistes et ou chercheurs, parce que ça vient peut-être des chercheurs, qui ont commencé à rédiger des papiers sur le sujet, ont fait une grosse erreur. 100%, c'est une greffe de corps.
Écoute, je pense, ouais. Alors bon, après, voilà, c'est assez... Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu parler, donc je ne sais pas si c'est encore en cours, tous ces trucs, mais effectivement, c'était assez rigolo. Enfin, c'est assez rigolo de loin, parce qu'en fait, non, c'était complètement terrifiant, mais bon. On va revenir peut-être à des trucs plus terre-à-terre quand même, avec Meta, qui donc rentre donc dans cette grande arène des chatbots, là, avec de la grosse niaque quand même, hein. Il est content, il veut essayer de brutaliser un petit peu tous ses rivaux avec son Llama, qui va essayer de piétiner comme ça les Claude, les Gemini et autres GPT. Mais bon, c'est difficile, c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un combat qui se fait à grands coups de milliards dans la tronche. C'est vraiment pas donné à n'importe qui, c'est très select hein, comme truc. Amazon a envoyé quand même 4 milliards de dollars dans Anthropic, hein, et c'est presque radin, c'est presque petit. OpenAI est perpétuellement en train de lever des fonds et de chercher des milliards pour aller jusqu'à créer ses propres puces. Hein. Microsoft vise les étoiles avec sa Stargate, donc son super data center, voilà, il va carrément poser 10 milliards sur la table pour ça. Il y a plusieurs années, mais enfin quand même. Il investit un petit peu dans tout ce qui passe, hein, dans OpenAI, mais dans Mistral aussi d'ailleurs au passage. Meta a acheté pour des dizaines de milliards de matériel, quant à lui, hein, y compris des centaines de milliers d'accélérateurs NVIDIA les plus puissants, les plus chers du monde aussi, et Google. Étrangement, Google est dans une position qui est effectivement, comme on disait, un petit peu en retrait médiatiquement parlant, alors que c'est lui qui a d'ores et déjà le plus de puissance. Et c'est lui qui a le plus sous la pédale en réalité. Google, c'est un hyperscaler majeur, il possède des flottes énormes de TPU, hein, donc c'est Tensor Processing Unit, et en fait c'est lui qui a le plus de puissance, et Demis Hassabis, qui est CEO de DeepMind, affirme que Google investira encore plus de 100 milliards de dollars dans l'IA au fil du temps. Donc une phrase magnifiquement vague hein, quand même, puisque bon, il dit pas à quelle échelle de temps, il dit pas comment ni pourquoi, parce que bon voilà, ça peut pas forcément... bref. Donc peut-être que c'est dans les 10 ans qui viennent, on ne sait pas. Toujours est-il que Google se réorganise aussi, et qui va donc se créer une grosse équipe, mais une équipe unique cette fois pour les appareils et les plateformes logicielles. Les plateformes logicielles, c'est-à-dire Android, les Pixels. Alors donc en gros, cette équipe va s'occuper à la fois d'Android, mais aussi des Pixels, et de Chrome OS, et de Google Photos, etc. Donc, elle sera dirigée par Rick Osterloh, qui est donc ancien responsable du hardware, et qui va donc aussi superviser les OS. Donc, il s'était responsable du hardware, maintenant, ils font hardware et OS. Donc, il va faire ça à la place donc, de Hiroshi Lokheimer, qui était responsable Android et Chrome OS. Donc, ce changement interne, en fait, il est important, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il est en train de verticaliser Google un petit peu plus. Parce qu'en regroupant les équipes matérielles et logicielles, ben, ils peuvent mieux tout optimiser et avoir une vision d'ensemble et voilà, prévoir mieux la synergie entre les deux. Et donc, ça ressemble à quoi ? Ben, ça ressemble un petit peu à ce que fait Apple. Donc, ils pourront donc créer du hardware autour de besoins software spécifiques et inversement, des besoins comme l'IA, bien entendu, parce qu'évidemment, ça a été abondamment évoqué, hein, forcément. Et donc, c'est un gros changement quand même, hein, parce que justement, Google n'est pas Apple. Je veux dire, il offre Android à tous, hein, Android, c'est un système qui est... c'est un écosystème universel, quoi, hein, et donc qui était naturellement séparé du matériel, hein, et que faisait Google par ailleurs. Chacun faisait son truc un petit peu à partir de cette base commune. Mais là, avec cette nouvelle intégration, est-ce que ça va changer quelque chose aux relations qu'aura Google avec ses partenaires constructeurs, Samsung en tête, hein, par exemple. Alors Osterloh, bien sûr, assure que ça ne changera rien, et que ça permettra par contre de faire des pixels de meilleurs fer de lance pour Android, pour la plateforme au complet. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question, toi, sur cette réorganisation interne.
C'est de la merde. C'est pas la vie voilà. Que tu voulais, hein. Ou pas formulé comme tu voulais. Disons que il y a un certain nombre d'utilisateurs que je pense qui s'en foutent et qui vont juste obtenir effectivement du meilleur matériel parce que ceux qui me connaissent le savent, les pixels, je les porte pas dans mon cœur, je trouve que c'est vraiment du matos de merde. Que la seule chose qui rattrape, c'est le software. Comme on vient de le dire, hein, c'est des équipes différentes. Potentiellement, ça va effectivement déboucher sur du meilleur matériel, mais nécessairement, tous les autres vont en pâtir. Tous les autres vont en pâtir parce que, par définition, s'il y a un bug qui va être logé dans Android Open Source Project, il ne sera priorisé que s'il est important sur les pixels. S'il y a un bug dans les outils de compilation des apps, mais que ça arrive que sur les téléphones chinois parce qu'ils ont pompé Cyanogen en dehors du cycle normal de release et qu'ils sont tombés donc sur un moment où la base de code n'était pas stable, ça ne sera pas priorisé parce que ça n'arrive pas sur les pixels. Ce genre de choses. Au-delà de ça, je pense que ce qui fait la grandeur d'Android, ce n'est pas tellement la somme des choix techniques qui sont faits, ni même leur qualité, c'est la vision universelle de ce que doit être un OS qui n'est pas un OS de téléphone, qui est un OS de terminal embarqué dans la poche de l'utilisateur, qui doit pouvoir tout faire, qui doit pouvoir s'adapter aux tablettes comme aux ordinateurs, comme aux téléphones, etc., etc. C'est ce qui fait que depuis 15 ans, si tu branches un clavier sur ton téléphone, ça marche. Si tu branches une souris sur ton téléphone, ça marche. Tout ça, c'est des trucs qui sont extrêmement nouveaux de l'autre côté de l'échiquier. Chez Apple, mais qui sont des trucs 100% naturels sur Android. Pourquoi ? Parce que quand on conçoit l'OS, on le conçoit comme un vrai OS de vrai système et ça a une portée universelle. Il faut que ça marche partout, il faut que ça soit bien partout, etc. etc. À l'inverse, dans le même registre de conséquences, mais des conséquences qui sont inverses, il y a beaucoup de choses qui sont laissées au choix des développeurs en termes d'implémentation. La culture autour d'Android, c'est de fournir des API et après, aux développeurs de les utiliser du mieux qu'ils peuvent et de la façon la plus tout aussi créative qu'ils veulent. Et ça a donné lieu à plein de choses, comme des gestionnaires de copier-coller, comme des launchers alternatifs, etc., qui sont toutes des choses qu'on ne retrouvera pas chez Apple d'aucune façon que ce soit et qui déjà depuis quelques années ont tendance à disparaître sur Android. Et là, avec cette intégration verticale complète, ça ne sera plus possible parce que évidemment, à chaque fois qu'au niveau de l'OS, on va rajouter des API, Google va s'assurer que ces API sont implémentées du mieux possible sur les pixels. Et donc, l'écosystème des développeurs va perdre déjà la capacité d'être les premiers à implémenter ces API et à amener de nouvelles fonctionnalités. Et en plus, ils vont potentiellement se heurter même à des... Le pixel sort avant que les sources sortent. Et donc, pas possible d'utiliser les API. Ou les API ont été développées de telle et telle façon que c'est vachement facile de les utiliser sur un pixel. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué sur un Samsung ou ton propre téléphone ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est extrêmement négatif en termes d'écosystème. Je pense aussi que Google perd un edge par rapport à Apple et que la comparaison sera d'autant plus flagrante. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'Android fait moins bien qu'iOS, c'est super facile de dire « Ouais, mais fais ta propre app. T'es pas content, c'est pas de problème. C'est open source, vas-y, let's go. Sur iOS, tu peux pas le faire. Enfin, » ça dépend de quoi on parle, évidemment. Il y a plein d'apps qu'on peut faire sur iOS, mais si on prend des exemples un petit peu edgy ou on prenait les launchers alternatifs, si le paradigme de UI te plaît pas, bah, tu peux le changer. C'est un argument qui sera de moins en moins vrai. Et donc, si on doit comparer Google et Apple, vraiment, ça va être des pommes et des pommes. Et il y a le jeu de mots est volontaire. Donc voilà, on perd la différenciation, on perd la personnalité. Je pense que l'écosystème il perd beaucoup. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau business, c'est un choix qui est extrêmement tentant pour Google, mais je ne sais pas si le long terme en vaut la peine, parce que ce qui est certain aussi, c'est que en devenant aussi verticaux que ça, ils vont perdre de la souplesse parce que les trends vont émerger de eux et pas de l'écosystème, et donc ils vont avancer à la même vitesse que Apple. Il y a une raison pour laquelle Apple est extrêmement peu innovant, en particulier en termes de mobile. Et Google Plus, ben, ça va disparaître.
Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Effectivement, cette verticalité, elle a pris, hein, c'est certain. Et donc, oui, à Google et pas à Apple. Donc, je ne sais pas exactement comment ils vont réussir à ménager la chèvre et le chou. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, d'ailleurs. Je ne sais pas exactement. On verra bien. Écoute, de toute façon, ça a l'air parti. Que ce soit pour l'IA ou pour, en termes de business pur, ça a l'air d'être décidé. Bon, écoute, on verra bien. Pour l'instant, on va s'attaquer à une autre grosse news de la semaine, quand même. La révolution chez Boston Dynamics. Parce que ça, c'est une boîte qu'on suit depuis assez longtemps, quand même. Boston Dynamics, j'ai l'impression, depuis toujours. Et alors, avec des vidéos de robots, hein, toujours toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Alors, c'est vrai, d'ailleurs, même du point de vue de Tech Café, c'est même vraiment toujours, je pense, parce que les vidéos des premiers Petman sont. Elles ont 12 ans, quoi. Donc, Petman, c'est leur premier machin qui marche sur deux pattes, là. Et donc après Petman, il y a eu Atlas, que vous avez tous au moins vu une fois dans votre vie, hein, ne serait-ce que dans des mèmes avec des robots qui vont au jour se venger de l'humanité parce qu'on leur tape dessus, qu'on les fait tomber, voilà, qu'on est méchant avec eux. Boston Dynamics, c'est aussi Spot, le chien robot, donc là aussi très connu. Et Boston Dynamics même, c'est devenu une filiale de Hyundai il y a quelques années, et ça restait une boîte de recherche quand même. Donc ils vendent un petit peu, ils vendent quelques robots, mais ils vendent très peu. Et depuis plus d'une décennie, finalement, Atlas... Ben, il fait des trucs de plus en plus impressionnants chaque année, mais ça reste un prototype. Toujours plus sophistiqué, mais ça reste toujours un proto. Et peut-être que c'était aussi parce qu'Atlas était hydraulique. Donc en fait, Atlas, il était alimenté par un tuyau de liquide, un liquide sous pression qui allait dans son dos. Et donc il y avait toujours des rails en dessous de lui, et puis voilà, le tuyau qui le suivait. D'ailleurs, ça nuisait un petit peu à sa liberté de mouvement. Et donc il y a même une vidéo où Atlas se blesse, je crois qu'il se casse un pied. Et donc il y a du liquide rouge comme ça qui saigne dans ses... Voilà, décidément. Et bon, ça n'aura échappé à personne que les robots humanoïdes, hein, c'est une nouvelle tendance, hein, que puis il y a quand même plusieurs acteurs connus ou moins connus qui se lancent à corps perdu sur ce qui deviendra, selon eux, un nouveau marché absolument gigantesque, hein, évidemment, puisque c'est des robots qui sont censés être totalement polyvalents. Il était même bizarre, finalement, quand même, que les pionniers de la robotique, avec leur expertise manifeste, hein, sur le sujet, finissent pas par se lancer eux aussi, et il aurait fallu faire une transition majeure pour ça, passer au tout électrique. Parce que c'est peut-être pratique à un certain moment l'hydraulique, mais en pratique, voilà, c'est pas extrêmement intéressant. Donc, Atlas renaît, ça y est, un nouvel Atlas est arrivé, avec des moteurs électriques qui le rendent beaucoup plus compact, beaucoup plus léger, et en fait, il est tout aussi costaud, hein, que son homologue hydraulique. En fait, il est même peut-être même plus costaud, et puis il a surtout une bonne tête, donc ça y est, parce que c'était juste en fait un tronc, il n'avait pas de tête à l'époque, mais là, maintenant, il a une tête, Il a même la tête de Luxo Junior, avec son rond lumineux. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est Luxo Junior, hein, c'est l'espèce de table, de lampe de bureau, qui est toujours, je crois d'ailleurs, l'emblème de Pixar. Et Luxo Junior, c'est vraiment l'inspiration pour la tête, ça a été confirmé par Robert Plater, son CEO, dans une interview, le CEO de Boston Dynamics. Alors le truc, c'est que vous trouvez en photo, on dirait qu'il est un peu mignon, Atlas, avec sa grosse tête comme ça de Luxo. Par contre, si vous le voyez bouger, vous le trouverez peut-être pas super mignon, parce que vous allez peut-être faire des cauchemars pendant des semaines, parce que si Atlas, il est humanoïde, il bouge pas comme un humain. Boston Dynamics, il a fait le pari de lui donner un panel de mouvements qui est bien supérieur à nous. Après tout, pourquoi se limiter à l'amplitude des mouvements des épaules et des coudes et des hanches qu'ont les êtres humains ? Du coup, Atlas peut littéralement se retourner sans se retourner. C'est-à-dire qu'il tourne sa tête à 180 degrés, le torse aussi, ses cuisses aussi peuvent tourner à 180 degrés, et donc avancer et reculer pour lui, bah, ça n'a pas vraiment de sens, il fait juste qu'avancer, et puis voilà, il est toujours dans le bon sens quelque part. Sa souplesse extrême lui permet aussi de se relever quand il est allongé au sol de la manière la plus cauchemardesque possible, hein, puisqu'il retourne littéralement ses jambes à l'envers en faisant une espèce d'arc. Donc il place ses pieds au milieu, enfin au niveau de ses, je sais pas, de sa taille, et après il se relève comme ça. Bon, il faut voir la vidéo qui est du reste très courte. Hein. Donc voilà, ce nouveau robot, il arrive avec une stratégie qui est totalement revisitée hein, pour Boston Dynamics, qui veut passer de labo de recherche à boîte commerciale hein, et vendre évidemment ses robots en grande série. Alors il vendait déjà des spots et des stretchs aussi d'ailleurs, des bras robotiques, donc ils vendent des stretchs, c'est un robot un petit peu moins connu, parce que c'est vraiment un robot industriel. Mais c'était de toute petite quantité. Là, ils veulent vraiment se lancer dans le robot de série, façon Tesla ou façon Figure. On va donc avoir un combat de robots l'an prochain, économiquement parlant, j'espère. Mais un jour, j'espère bien que dans une arène, on aura un combat de robots. T'imagines la Robot Combat League avec des Atlas et des figures comme ça qui se tapent dessus. Moi, je parie sur Atlas, hein, c'est clair. Je sais pas si tu paries sur qui, toi.
Bonne question.
Si je tape.
Non, mais parce que tu sais, il y a un truc que tu dis pas là, mais tu parles de conversion à l'électrique, mais est-ce qu'on est vraiment capable de fitter suffisamment d'énergie dans un robot humanoïde? Parce que tout l'intérêt de la forme humanoïde, c'est de donner un panel de fonctionnalités extrêmement large, aussi large que les humains, si ce n'est plus. Donc le combat, y compris à titre de divertissement, en fait sûrement partie. Mais moi j'ai comme ce scénario dans la tête où on fait un combat et puis en fait c'est super plate parce que il se passe pas grand chose et puis à un moment donné il y en a un des deux qui tombe en rade de batterie et puis pour moi ça ressemble à du football. je suis désolé pour les amateurs, oh là là. Mais les matchs à 1-0 pendant 90 minutes, alors que tu compares au basket, les mecs seraient déjà plus que l'infini en termes de points. C'est le feeling que ça me donne et ça me questionne, tu vois, parce que pour le coup, les robots qui font des tâches répétitives, paradoxalement, comme ils font des tâches répétitives, on pourrait réussir à les fitter avec suffisamment d'autonomie, mais on n'a pas besoin parce qu'en fait, ils ne bougent pas, donc on les câble. Et alors ceux-là, comme on veut qu'ils fassent plein de choses et qu'ils se déplacent, et il faudrait qu'ils utilisent des batteries, mais du coup, c'est vachement plus compliqué, on ne peut pas trop les câbler parce qu'on veut qu'ils se déplacent. Est-ce que c'est un gap technologique qu'on est vraiment capable de franchir aujourd'hui ?
C'est une très bonne question, et pour être honnête, je ne connais pas les autonomies respectives de ces robots. C'est-à-dire, je ne sais pas, et surtout, évidemment, ça dépend de ce qu'ils font. Forcément, hein, parce que, ouais, ils ont plein de moteurs, s'ils marchent, s'ils font des petites manipulations ou s'ils portent des charges plus lourdes. Bah forcément, ça ne va pas être la même consommation d'énergie, donc c'est difficile à quantifier, et j'ai aucune idée de combien de temps peut, bah, je sais pas, durer un robot Docker, par exemple, qui porterait des caisses, ou un robot manutentionnaire, quoi, qui porterait des caisses d'un endroit à un autre. C'est vrai que ça me paraît compliqué que ça dure toute une journée. Très honnêtement, voilà. Après, tu peux toujours te dire que bah, t'en as plusieurs et qu'ils font ils font les 3-8, quoi, quelque part.
Non, c'est sûr, mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, ça reste un critère parce que, je veux dire, la taille du robot, ça compte. Comment il bouge, ça compte, mais la durée, ça compte aussi.
Eh bien, complètement, exactement. Écoute, oui, c'est... Enfin, on verra bien, mais c'est vrai que c'est une question extrêmement intéressante. On a déjà parlé pas mal de robots et d'IA, on va passer à une rubrique un petit peu plus sociale où on va évoquer plusieurs sujets différents autour de cette thématique un petit peu. Et on commence avec de la pression sociale, de l'engineering social même, puisque voilà, on avait relaté l'histoire terrifiante des XZ, hein, ce logiciel slash librairie de compression qui avait été infiltré par un certain Jiatan, qui avait mis dedans une monstrueuse backdoor hein, qui a failli se retrouver dans une bonne proportion de tous les serveurs du monde quand même. Donc une attaque qui a profité du fait que le développeur de XZ était globalement tout seul. Donc il est très possible que ce type d'attaque ait aussi été tenté sur OpenJS. Donc c'est OpenJS, c'est la fondation, c'est une fondation pour JavaScript. Donc ils ont reçu des emails qu'ils ont trouvé très très suspects quoi, qui étaient en lien avec un projet particulier qu'ils hébergent. Hein. Le nom du projet n'est pas mentionné. Des emails avec plusieurs noms, tous venant d'adresses mail sur GitHub. Alors pas forcément évidemment, moi c'est peut-être une seule personne. En tous les cas, des emails de gens qui tentent de se faire inclure dans les projets, d'en devenir administrateur. Ces gens qui auraient repéré des failles critiques et qui voudraient modifier le code, sauf qu'ils ne disent pas ce que c'est. Alors, c'est qu'ils ne donnent pas de détails, c'est quand même un petit peu bizarre. Il y a d'autres projets JavaScript qui sont pas hébergés, eux, donc, hein, par ailleurs, qui ne sont pas hébergés par la Fondation, qui ont aussi reçu des emails suspects. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une campagne en ce moment? Est-ce qu'on essaye? Il y a des gens qui essayent un petit peu tout, comme ça, voir s'il y a des fruits qui tombent. Bon, en plus, s'en prendre à la Fondation OpenJS, c'est quand même pas super malin, parce que c'est pas un projet avec un dev tout seul, bénévole, quoi. Il y a du monde, hein, c'est une fondation, quoi. Donc on se demande inévitablement si c'est pas la partie émergée de l'iceberg. Donc voilà, apparemment, ce type d'attaque se fait. Est-ce qu'elle se fait justement parce qu'on a compris qu'on pouvait faire ce type d'attaque et que c'est lancé, ou est-ce qu'il y a une campagne avec des acteurs organisés, beaucoup plus sérieux, peut-être même des campagnes d'autres pays, etc. En tout cas, c'est assez inquiétant, effectivement. Je sais pas, Pod, est-ce que tu arrives encore à dormir la nuit? C'est quand même angoissant, tout ça.
Pour moi, c'est... En tout cas, tu évoquais les pistes de d'acteurs possibles. Pour moi, ça ressemble vraiment à de l'institutionnel, là, à des groupes pilotés par des pays. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu te mets à la place d'un pirate et que tu fais ça, il y a aucune... Tu veux pas te faire griller. Toi-même, tu utilises énormément d'outils open source. Et si tu arrives à rentrer, c'est tellement puissant le edge que ça te donne que tu vas jamais communiquer. Tu vois, le tact que ça prend fait que, typiquement, des exemples comme OpenJS, tu vas pas. Tu vas vraiment cibler des tout petits outils. Tu vas t'impliquer toi-même dans le développement, probablement être un acteur important de la communauté que tu vises. Et continuer de l'être et passer les trucs comme ça en scred, vraiment en mode infiltration, quoi. De taper aussi maladroitement, on dit maladroitement, ça reste suffisamment bien fait pour être un sujet d'inquiétude, là, mais de viser aussi gros, c'est vraiment arrivé en mode pato. Pour moi, ça me fait penser à voici la directive. Voici ce que vous devez atteindre, voici ce que vous devez faire. Et les mecs ont 3 mois, 6 mois pour réaliser le truc. Alors que, déjà, juste rentrer dans une boîte, ça prend 2 ans. Je parle de rentrer en termes de piratage, là. Toutes les grosses fuites de données là, dont on a entendu parler, les mecs étaient là depuis 18 mois, 24 mois, un truc dans le genre. Alors, rentrer dans un projet open source où... tout est à vue de tout le monde, ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas arriver comme ça, malheureusement. Donc, est-ce que je dors la nuit? Bof, bof, sachant que les sources de conflits internationales s'intensifient sur tous les types de fronts, y compris donc en termes de sécurité informatique.
Oui, exactement. Est-ce que d'ailleurs on pourrait imaginer que s'il y a une campagne comme ça qui réussit et qui permet de faire un piratage massif et qu'on découvre qu'il y a un acteur institutionnel derrière, est-ce que ça peut être un casus belli? Bon, forcément, on ne peut pas ne pas se poser la question en ce moment. Et c'est effectivement pas très réjouissant tout ça, même si bon, c'est très difficile de prouver à 100%. Enfin bon, on verra bien. En tous les cas, on passe au sujet des sujets un poil plus légers. On va parler de X, donc c'est un sujet un petit peu plus léger. Guillaume l'évoquait la semaine dernière, hein, c'est confirmé. Elon Musk va bien faire payer une petite taxe de 1$ pour pouvoir poster sur X. Et c'est pour lutter contre les bots. Alors si vous ne payez pas, bah, vous pourrez quand même finir par poster au bout de 3 mois. Donc les questions évidentes sur l'efficacité de telles mesures se posent naturellement, hein, et d'ailleurs par beaucoup de monde, hein, s'il suffit d'attendre 3 mois, faut créer votre compte tout de suite, et puis voilà, vous posterez cet été, puis c'est bon. Tout ça, c'est dans la continuation d'une expérimentation qui a commencé l'an dernier en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Une expérience que manifestement Elon Musk a jugée concluante. Par ailleurs, Elon veut son bonus, d'ailleurs. Il veut pas y renoncer, or c'est normal qu'il y renonce pas si facilement, hein. C'est quand même un gros bonus, un très très gros même de 56 milliards de dollars. En tant que CEO de Tesla, donc il a rempli brillamment ses objectifs. Donc rappelez-vous, il y a une juge du Delaware qui s'est prononcée contre, hein, néanmoins, puisque bon, l'attribution de cette fortune n'ayant pas été décidée par un board complètement impartial, hein, pour résumer. Donc comme on pouvait s'y attendre, Musk veut déménager le plus vite possible l'entreprise carrément Tesla du Delaware au Texas, où sont désormais ses nouveaux meilleurs amis pour la vie. Le 13 juin, c'est son super bonus aussi qui va revenir sur la table, donc pour la réunion annuelle, hein, du conseil d'administration, et donc apparemment Robin Denholm, qui dirige le board de Tesla, a adressé une lettre aux investisseurs pour faire pleurer dans les chaumières, voilà, que Musk n'a pas été récompensé, que c'est trop injuste. Il serait aussi voté d'ailleurs ou non lors de cette réunion, le déménagement pour l'État donc à l'étoile solitaire, comme on l'appelle, poétiquement, dans un pays où la poésie se fait si rare, n'est-ce pas, malgré Taylor Swift, hein, ou Ivanka Trump, encore mieux. Donc Pod, je sais pas, as-tu une pensée émue pour l'injustice à laquelle Elon doit faire face ?
Non.
je comprends, on peut passer à TikTok tout de suite. On peut passer à TikTok, finalement. TikTok, il y a une tactique pour vous faire rester encore et toujours plus de temps. Voilà, cette tactique, elle n'est pas très compliquée, c'est de vous payer. Oui, c'est simple, payer les gens, en général, ça marche pour tout, à peu près. Sauf pour l'amour et la poésie, bien sûr, et notre liberté de penser, bien évidemment. Mais bon, on pourrait se demander comment il est venu à l'esprit TikTok, qui est déjà attaqué un petit peu de tous les côtés parce qu'il serait addictif, hein, de chercher à capter encore plus de temps d'écran. Et en fait, on parle de TikTok Lite, pour être plus précis, et c'est passé dans la presse généraliste un peu partout, hein. TikTok est en train de gamifier, tout simplement, l'utilisation du réseau, et organise tout un ensemble d'événements et de récompenses qui reprend trait pour trait ce que ferait un Temu, hein, par exemple. Donc tu gagnes des points pour le temps passé, pour suivre les gens, pour les parrainages, voilà, où tu jettes tes proches dans la spirale de l'enfer. Ces points ont une valeur monétaire, hein, in fine, tu peux acheter des trucs avec, des petits chèques cadeaux, il faut y aller quand même pas mal, parce que 100 points c'est 1 centime, donc ton prochain iPhone il est pas payé quand même. Hein. Mais bon, tout ça est pas mystérieux, hein. TikTok vous paye pour vous laver le cerveau de pubs et de conneries, et pour que lui-même soit payé beaucoup plus par ceux qui mettent ces mêmes pubs. Alors le DSA interdit ce truc pour les mineurs, donc il faut justifier de son âge, donc tu peux le faire avec un selfie. Bon, apparemment, il y a un partenaire qui s'appelle Yoti qui analyse ça. Alors, comment il analyse, c'est pas clair. Donc, peut-être à l'arrache avec une IA ou alors avec des Philippins sous-payés, je ne sais pas. Pas sûr que ça soit très difficile à contourner. D'ailleurs, tout ça n'a pas l'air de convaincre des masses l'Union Européenne qui a lancé une enquête hein, officiellement sur TikTok Lite. C'est que, bon, ce qu'il y a de bien avec TikTok ou Temu, c'est que c'est assumé, quoi. Hein, je veux dire, il n'y a pas trop à se poser de questions. Et je suis sûr que ça va cartonner, hein, voilà, qui va faire plaisir aux actionnaires et donc par ricochet à Susquehanna. Parce que, Pod, tu nous as trouvé l'origin story de TikTok que je connaissais pas du tout, en fait.
Ouais, exact. J'ai trouvé... Je nous ai chiné un article extrêmement bien écrit qui raconte qu'effectivement... donc, c'est un article du New York Times qui nous raconte un peu la genèse, non pas de TikTok, mais de l'algorithme de TikTok. Puisqu'en fait, en l'occurrence, avant de donner naissance à ByteDance, le créateur de TikTok avait essayé d'implémenter son idée dans une start-up qui était dédiée tout simplement au marché du... mon Dieu, j'essaye de traduire en direct. De l'immobilier, merci. Vous avez remarqué comme real estate, ça n'a aucun sens pour parler d'immobilier. Bref. C'est la petite parenthèse du jour. Donc c'est ça, non, c'est un article extrêmement intéressant que évidemment on va mettre dans les sources du podcast comme de l'épisode comme d'habitude. Et c'est une c'est un petit peu trop long pour être résumé au format podcast, mais c'est une comment dire, une porte ouverte sur le fonctionnement des startups que moi j'ai trouvé assez intéressante parce que TikTok aujourd'hui ça vaut des milliards et d'autres exemples il y en a comme ça et c'est vrai que on a tendance à penser que bon ben ces gens-là ont eu la bonne idée et il y a un truc qu'on dit beaucoup dans la scène entrepreneuriale, c'est que les idées valent rien, c'est l'exécution qui compte. Et en fait, ce récit, je trouve le monde de façon intéressante parce qu'en fait, l'immense majorité des entreprises qui ont du succès aujourd'hui et qu'on connaît parce qu'elles sont énormes, ont suivi exactement le même type de développement que TikTok, à savoir que on a une ou plusieurs personnes qui ont eu des idées que il ou elle trouvait vraiment intéressante à explorer, mais ces idées-là, il a fallu plusieurs itérations avant qu'elles réussissent. Parce que ça fonctionne pas sans une bonne exécution. Donc c'est un article super intéressant qui montre que gamifier le marché de l'immobilier, ça fonctionne pas de ouf, alors que gamifier le contenu vidéo et reprendre le contrôle sur ce que les gens regardent, bah là ça marche. Comme quoi, là, tu vois, tu parles d'une expérience où on va payer les TikTokers. Il se trouve que si on faisait l'inverse, si les TikTokers payaient, ben, peut-être qu'ils seraient un petit peu moins enclins à subir l'algorithme et aimeraient peut-être avoir un peu plus de choix. Et si on pousse le vice à une somme de quelques centaines de milliers de dollars pour l'immobilier, ben, il se trouve qu'ils ne sont plus du tout d'accord, les gens.
Effectivement, bah c'est vrai que c'est assez marrant. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout non plus l'implication de Susquehanna, qui est donc un gros fonds d'investissement, hein, et que, voilà, qui apparemment a injecté des fonds dans ce truc d'immobilier. Bon, apparemment, effectivement, ça n'a pas beaucoup marché. Et puis, du coup, le CEO, effectivement, a voulu recycler ça dans des... donc, ils ont fait un prototype avec... ce prototype chaton mignon, quoi. Je crois qu'ils ont fait un site avec des chatons mignons. Ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien, et puis voilà, après, le reste, c'est l'histoire. C'est vrai que c'est assez inattendu, quelque part, comme origin story, on va dire. Bon, en tous les cas, si vous connaissez, je ne sais pas si vous saviez connaissez l'origin story de TikTok, est-ce que vous connaissez SpyPet? Moi, je ne connaissais pas SpyPet. Hein. Mais bon, si vous traînez sur les serveurs Discord, c'est peut-être normal que vous le sachiez, SpyPet, ça aspire à tout ce qui passe. Donc, ils scannent 14 000 serveurs, ils ont scanné, et ils continuent probablement à scanner 14 000 serveurs. Et 600 millions d'utilisateurs, ils ont une base de 3 milliards de messages postés sur Discord. Vous pouvez trouver un utilisateur, ses messages et tous les serveurs qu'il a fréquentés. Il semble d'ailleurs que les messages privés ne soient pas pris en compte, en tout cas pour le moment. Donc pour un peu de crypto, vous pouvez avoir toutes les infos que vous voulez. Alors tout ça peut être pris de différentes manières. Hein. Sur un forum web, n'importe qui peut voir ce que vous dites avec un simple moteur de recherche. En quelque sorte, on peut voir SpyPet comme une sorte de moteur de recherche, mais pour Discord. Sauf que déjà, on s'y attend peut-être pas, hein, parce que voilà, être suivi jusque sur Discord, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, et en plus, l'aspect monétisé en crypto, en plus, achève de rendre le truc un petit peu louche, un petit peu cynique même. Il est à noter que SpyPet ne donnait pas la possibilité de demander son retrait de la base. Alors ça semble avoir été modifié, donc il y a un lien maintenant, opt-out. La page est magnifique d'ailleurs de ce lien, puisque elle a été créée, je cite, « si tu as des... controverse. » Et ils mettent bien en italique le mot controverse pour bien faire comprendre que pour eux, il n'y a pas de sujet, que ça les fait chier, hein, tout simplement. Faut le dire. Donc voilà, respecter le RGPD, ça les emmerde, hein, évidemment, je comprends ça, mais bon. Donc c'est un truc semi-louche, même sur Discord, les bots peuvent vous traquer. Je sais pas si tu utilises beaucoup Discord et si tu étais conscient de ça, toi, Pierre-Olivier.
Un petit peu, puis l'enjeu, c'est que j'utilise beaucoup plus Slack. Et il semblerait qu'il y ait un certain nombre de parallèles, à savoir que Slack a sorti des API qui permettent aux bots d'IA d'accéder au contenu. Puis l'idée évidemment c'est de pouvoir, je vais donner un exemple. Si on fait un chatbot qui peut répondre à des questions sur des documents qui ont été partagés ou des conversations, est-ce que ce thread-là a abouti à une décision? Et si oui, quel est le lien de la tâche? Ce genre de choses, des choses qui sont fondamentalement positives. Mais il se trouve qu'il y a une controverse un peu naissante. Et moi je la prends à des pincettes parce que j'ai pas vérifié moi-même, mais il semblerait que ces API-là donnent aussi accès aux channels privés et peut-être même aux messages privés. Et si c'est le cas, évidemment c'est un problème puisqu'on connaît la propension de certains chatbots à répéter ce qu'ils ont entendu pendant leur apprentissage, et ça peut générer des cas un petit peu compliqués. Disons que je vois très très bien le scénario où quelqu'un demande à un chatbot, Genre, ouais, pourquoi, au fait, on n'a pas implémenté cette feature? Et que le chatbot répond, ouais, bah, Pod, il a dit que c'était de la merde dans ses DM, du coup, il l'a noyé. Ouais, bof, pas ouf, quoi. À prendre avec des pincettes, mais je fais le parallèle avec avec cet enjeu sur Discord d'absorption de contenu. Il y a des choses qui se passent.
Il y a des choses qui se passent, et effectivement, hein, 4 milliards de messages, oui, ça peut donner à manger à des IA, et je pense que c'est des données qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde, bah, à l'heure actuelle. Et bon, dans la série, on est vraiment plus peinard nulle part. On va parler un petit peu de recherche. C'est un sujet récurrent, la recherche sur Internet ces derniers temps, la qualité des résultats Google et la recherche du contenu humain vraiment utile, ben voilà, c'est vraiment un sujet de discussion, quoi, hein. C'est, en ce moment, c'est assez terrible. Recherche qui se finit souvent, finalement, sur Reddit ou sur Quora. Et ça, Google n'a pas pu le rater. Du coup, bah écoute, allons-y, hein, assumons. Google fait donc remonter depuis quelques temps beaucoup plus de résultats qui sont issus de Reddit. Alors voilà qui fait donc une bonne visibilité bien accrue pour le site, hein, et donc ça doit faire les affaires du CEO. D'un côté, oui, mais d'un autre, bah, les problèmes de Google lui retombent dessus, du coup. Reddit voit une croissance incontestable de son trafic, hein, c'est vrai, et puis il voit aussi une croissance proportionnelle de spam. C'est logique, hein, jusqu'ici, le sport favori sur Internet, c'était de truster le top des premiers liens des résultats à Google. Bah, donc si Reddit se trouve en tête de gondole, bah, c'est là qu'il faut être, et donc bah, les subreddits sont de plus en plus des cibles potentiellement faciles, en plus de spam et voilà, d'abus, quoi. Alors, ils sont parce qu'ils sont potentiellement faciles parce qu'ils sont modérés par des bénévoles, et parfois même par un seul bénévole d'ailleurs. Donc en février, il y a un blogueur spécialisé dans le SEO qui a noté que la moitié des fils d'actu de Reddit qui faisaient surface dans Google contenaient un spam en commentaire numéro 1. Et en fait, c'est même devenu le nouveau sport favori sur Internet, hein, avec plein de tutos YouTube sur comment détourner Reddit pour être voilà, en top sur Google. Alors j'ai appris d'ailleurs à cette occasion-là qu'on pouvait acheter des upvotes. Les upvotes, c'est ces votes, hein, qui vous permettent de faire monter ou descendre éventuellement des sujets sur un subreddit particulier. Donc t'as des vendeurs d'upvotes. Sérieusement, quoi. Je veux dire, c'est fatigant. Moi, je serais chez Google, je serais fatigué. D'ailleurs, donc moi-même, je suis fatigué. Donc Quora et Reddit, ben, d'une manière générale, tous les forums avec du contenu humain comme ça sont potentiellement... voilà, ce sont des choses qui sont potentiellement utiles, du coup, et qui bénéficient d'un boost de visibilité, hein, ce qui est cool dans le principe. Et ça va aussi faire plaisir aux actionnaires de ces entreprises, mais bien évidemment, ça veut aussi dire que Google bah, leur largue une partie de ses soucis. Je sais pas, est-ce que ça t'inspire ? Est-ce qu'il y a encore un espoir pour Google ?
Le problème, c'est que c'est pas juste Google, quoi. C'est le web en général. Le fait est qu'on trouve plus rien et que l'essentiel du contenu est dans des écosystèmes extrêmement fermés, que sont les réseaux sociaux. Et Reddit, c'est peut-être un peu plus ouvert, mais ça reste le plus fermé des forums, tu vois. C'est aussi un écosystème spécifique avec ses règles. On l'a vu avec le drama autour des API. Et aujourd'hui, voilà, c'est si tu cherches quelque chose, un contenu qui est authentique, qui est pas un service commercial, qui est pas un produit à acheter. C'est extrêmement difficile et de la même façon, même pour chercher des informations sur un produit commercial, à moins que tu connaisses les sites de référence qui ont des reviews à peu près honnêtes ou au moins dont tu connais les biais, tu trouveras rien. Fait que mettons que tu sois au hasard, je dis ça vraiment complètement fortuitement, passionné de devices mobiles comme les smartphones, mais que tu connais tous les sites de référence en la matière et donc tu n'as aucun problème à choisir un nouveau smartphone, mais que finalement, là, aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est d'acheter un aspirateur. Ben, quand tu tapes « c'est quoi le meilleur aspirateur de 2024 » sur Google, putain, faut te lever tôt, hein, pour avoir des résultats. C'est tout du spam, des sites plus ou moins sérieux. Si dans le lot, il y a un site qui est vraiment une référence, par des gens dont c'est le métier, par exemple, de faire du ménage ou ce genre de choses, bah, tu ne le trouveras pas parce que toi, tu n'as pas ces refs-là. Donc, ce n'est pas un site que tu suis depuis des années, ce genre de choses. Donc, voilà, les Je le dis de façon très officielle, les blogs de voyage, les essais philosophiques, la littérature politique, tout ça, c'est mort et enterré sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de spam. Et Reddit était un petit peu un espèce de bouée payante, mais de bouée quand même là-dedans. Et puis Google s'en est aperçu, et comme c'est trop difficile de plomber le SEO, parce que c'est un jeu de chat et souris, le mauvais SEO, et de réobtenir des bons résultats, ils ont choisi la facilité, à savoir de rediriger vers des endroits où le trafic est à peu près préservé, mais ça va pas durer non plus. Donc c'est dommage. Moi, je suis pas trop sûr de savoir dans quelle direction va le web. La seule chose qui me rassure, c'est que il y a beaucoup de contenu vidéo de qualité, et que avec les technologies d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile de référencer du contenu vidéo que ça l'était à l'époque de référencer du flash. Pour les plus vieux d'entre nous qu'on connu les enjeux là autour des sites flash qui n'étaient pas référençables, et pour de bonnes raisons. L'avantage, c'est que la vidéo, c'est un petit peu plus simple. Et donc, il y a peut-être un petit espoir. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, je cherche en premier sur YouTube. Et après, sur YouTube, ça me donne les liens vers les tutos. Par exemple, pour installer des LLM sur une machine un peu spécifique ou genre de choses, c'est ça qui donne des résultats. Reddit, c'est ma deuxième façon. Si je trouve pas sur YouTube, je vais chercher Reddit. Mais c'est triste, c'est super triste, et je peux pas m'empêcher de penser que il y a des gens aujourd'hui qui ont 18 ans et qui ont jamais vraiment connu un web fonctionnel où on pouvait trouver tout et n'importe quoi. Ou quelqu'un qui partageait ses états d'âme sur des choses aussi ordinaires que nourrir les canards pouvait avoir un espace d'opinion où il allait y avoir une centaine de personnes qui sont aussi dans cette niche et qui trouvent un intérêt à lire ce genre d'article. Aujourd'hui, c'est pas possible.
Les skyblogs, tu nous rappelles l'époque des skyblogs?
En vrai, oui.
C'est ça en fait. Hein. Je sais bien, mais c'est... Oui, d'ailleurs, j'ai un sentiment même ambivalent avec Discord, hein, puisqu'on parlait de Discord. Discord, d'un côté, pour de la messagerie instantanée, c'est cool. Mais j'ai aussi un sentiment de perte très fort, hein, quand ça remplace les forums en ligne. Parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais la tendance est de remplacer les forums par des Discord. Et ça me gonfle, parce que c'est pas du tout les mêmes fonctions. Et c'est pas fait pour ça. Tu vois, sur les forums, tu peux trouver... Ouais, vas-y.
Non, je ne peux que plus soyer.
Oui, sur les forums, tu peux trouver des informations qui restent utiles, hein, sur le temps long, qui sont trouvables, qui sont indexées par les moteurs de recherche. Donc, tout le savoir qui est écrit sur les Discord reste prisonnier des Discord. Et c'est une perte, je pense, parce que c'est beaucoup... C'est introuvable, quoi, je veux dire. Sauf si tu connais, tu es absolument introuvable. Et puis en plus, Discord, c'est un peu bordélique aussi. Si tu cherches des infos, en tout cas, c'est quand même assez bordélique. C'est peut-être moi qui suis trop vieux, mais enfin, je trouve ça plus bordélique, en tout cas, que les forums.
Et puis, pour les journalistes, les historiens, etc., c'est aussi un problème. Je peux donner un exemple spécifique. Je peux peut-être pas, je me rappelle pas comment ça s'appelle, cette boisson. Shit. Aujourd'hui, c'est vendu comme des compléments alimentaires, là, de type protéines, shake, ce genre de trucs. Mais pendant un temps, c'était vendu comme un vrai substitut de repas. Pour des gens qui veulent arrêter de manger parce que pour des raisons X ou Y, ils ne trouvent aucun plaisir ni en termes de goût à manger et encore moins en termes social, de prendre une demi-heure, une heure pour s'attabler, et encore pire si c'est avec des gens. Ce produit, dont j'aimerais vraiment que le nom me revienne, ça sera beaucoup plus clair pour nos auditeurs. Il est né d'un mec qui écrivait un blog et qui faisait ses propres expériences, ses propres dosages, jusqu'à ce qu'un jour il ait trouvé quelque chose qui fonctionnait et tout ça.
Tu parles du Soylent ?
Merci. du Solent. Et ces articles-là, aujourd'hui, sont introuvables. Très probablement que l'entreprise a voulu nettoyer ça, mais forcément, des gens ont fait des copies, forcément, il y a des archives, forcément, des gens en ont parlé sur les forums, etc. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus rien, et plus le temps passe, plus ces forums-là vont être débranchés, ces archives-là vont disparaître, etc. etc. Fait que, voilà, je trouve ça dramatique.
Non, mais effectivement, il y a la Wayback Machine, hein, quand même, qui fonctionne toujours.
Et puis encore là, la Wayback Machine, qui la finance, quand, comment, combien de temps ça va durer ? Il faut se poser la question aussi sur Wikipédia. Aujourd'hui, Wikipédia, tout le monde prend ça pour acquis. Mais il ne faut pas oublier que voilà, il faut mettre la main à la pâte, parce que sinon, ça disparaît. Il y a une règle de résilience de si tu as 2, tu as 1, et si tu as 1, tu as 0, parce qu'il y a toujours un truc qui peut fermer. Si tu t'achètes une baraque dans un village en disant « Ah, ben, y a une boulangerie, c'est pas si pire ben, », c'est comme s'il y en avait 0, elle peut fermer demain. Ben, là, c'est pareil, si les gens prennent pour acquis que, ben, tu sais, en termes de recherche et tout, pour des trucs un peu velus, blablabla, c'est bon, il y a Wikipédia. Non, si demain Wikipédia ferme, qu'est-ce qu'on fait ? Et la Wayback Machine, c'est pareil. Au-delà du fait que ça ne répond pas tout à fait à la problématique d'enquêter, d'archiver l'historique d'une entreprise un peu shady et d'aider le travail journalistique, parce que la Wayback Machine, ça te répond quand tu as déjà trouvé ta piste que tu suis. Effectivement, c'est un outil, mais c'est pas quelque chose qui te permet d'identifier ce que tu cherches.
Oui, c'est vrai. Et bon, en plus, par-dessus tout ça, il y a effectivement la mutation des moteurs de recherche qui s'annonce avec des IA qui vont encore créer une sorte de mur, si tu veux, enfin, une sorte de couche d'isolation supplémentaire. Bon. Moi non plus, je ne sais pas, du coup, à quoi va ressembler le web dans le futur, mais je pense que vous non plus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le savoir, parce qu'on va rester et on va vous le dire, nous, à quoi ça va ressembler. Et on va suivre tout ça ensemble. Mais bon, en attendant, on va conclure cet épisode avec une petite section jeux vidéo, comme on le fait toujours. Alors, on va commencer par Meta, quand même, qui ouvre sa plateforme VRXR aux autres constructeurs. Donc, Horizon OS voudrait devenir un petit peu l'Android des casques VR. C'est l'ambition de Mark Zuckerberg, hein, c'est un coup à jouer, finalement, puisque pourquoi pas. Donc, il va y avoir sans doute des casques Quest chez Asus ou Lenovo, hein, et à tous les prix, avec peut-être des caractéristiques un petit peu propres, un petit peu différentes. Mais bon, tous devront quand même partager le hardware de base, hein, qui est donc vient de chez Qualcomm, et aussi la couche Horizon, cette espèce de couche sociale, hein, donc ce réseau social VR, qui est donc une sorte de début de métaverse, hein, et qui deviendra aussi une sorte d'OS universel. Donc, en fait, Horizon OS va devenir une sorte de Windows pour les casques, hein, quelque part, voilà aussi, si vous voulez. Windows ayant lui-même été un temps un système d'exploitation avec une composante VR, d'ailleurs, qu'il a dégagé il y a peu, donc ça n'a pas très bien marché. Mais bon, souvenez-vous, Windows Mixed Reality, avec les casques voilà, de toutes les marques, qui se trouvent vraiment très très peu chers sur Internet en ce moment, donc si vous voulez, enfin sur le bon coin. Mais bon, premier partenariat marquant quand même de tout ça, Microsoft et Xbox hein, en particulier, et ce sera un MetaQuest 3 Xbox Edition, donc ce sera avant tout un MetaQuest 3, donc ça va arriver avec du verre sur la coque et une manette Xbox, et puis à peu près tout, vous enflammez pas, ce n'est pas du tout une réponse au PSVR, hein, pas du tout. L'idée c'est de jouer sur un écran géant, en réalité mixte, un petit peu comme avec un Vision Pro. Voilà, est-ce que ça signifie un intérêt renouvelé de Microsoft pour la réalité virtuelle ? Moi j'irai pas jusque là. Je sais pas si tu as un... Tu penses que c'est... Non, je pense pas que Microsoft va-t-il se relancer dans la VR, je suis pas sûr.
C'est pas une entreprise super persistante, y a peu de chance.
Ouais. Et bon, on va donc enchaîner avec encore des mauvaises nouvelles. Hein. Take-Two va licencier 5% de ses employés après avoir dit le mois dernier que c'était pas du tout prévu. Alors Take-Two, c'est quand même Rockstar Games, c'est aussi Zynga, et donc ils ont quand même déboursé 460 millions... $2 tout dernièrement pour acheter Gearbox, donc Take-Two, est-ce qu'ils ont des soucis d'argent ? Je suis pas sûr. Mais il y a quand même 600 personnes sur le carreau, après les presque 20 000 hein, quand même qui ont déjà été bourdées en 2023 et 2024, non, sur le secteur du jeu vidéo hein, uniquement. Et c'est pas fini, et d'ailleurs ça risque de merder en Europe aussi, puisque on parlait de Gearbox là, juste tout de suite, hein, ils l'ont acheté à qui, Gearbox, les gars de chez Take-Two ? Ils l'ont acheté à Embracer. Mais Embracer, le truc, c'est que cela n'existe plus, ça y est, c'est fini. On vous parle depuis des mois, hein, probablement, des soucis du groupe suédois. Alors, depuis que les Saoudiens leur ont finalement pas donné les 2 milliards de dollars qu'ils espéraient. Ben, ça, voilà, ils payent, mais vraiment très 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 cher, sa fièvre acheteuse, qu'il a eu depuis, je sais pas, 2019-2020, un truc comme ça. En tout cas, au plus haut, le groupe Embracer, c'était 110 studios et 12 000 employés, donc un éditeur de classe mondiale, hein, dont la descente aux enfers se termine finalement sur une dislocation complète. Donc, Embracer va être divisé en trois groupes, Asmodee, Coffee Stain and Friends, et Middle-Earth Enterprises and Friends. Le premier, vous le connaissez de nom, hein, c'est, voilà, c'est la branche jeu de plateau, Asmodee, c'est assez connu. Coffee Stain, c'est le groupe qui va, qui va comprendre un petit peu les petits studios, plutôt, les licences comme Satisfactory, God Simulator, Valheim ou Teardown. Et le dernier, il va regrouper les gros studios, du coup, les studios qui font des AAA, et c'est aussi celui qui sera propriétaire de la licence du Seigneur des Anneaux, d'où le nom, hein, bien sûr, tout simplement. Donc Tomb Raider va se retrouver en terre du milieu, hein, tout simplement, avec des amis, puisque c'est là que la branche de Square Enix Occident se trouve, désormais. La branche Occident de Square Enix qui a été rachetée par Embracer à l'époque. Donc tout ça, bon, ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, hein, là ça a été décidé, mais évidemment ça va prendre des mois et des mois, et la réorganisation va prendre du temps, et il est aussi à craindre qu'elle ne provoque ses propres vagues de départ, malheureusement, à un moment ou à un autre. Et bon, on peut finir sur Apple, sans doute, puisque c'est... ça y est, il existe un magasin alternatif sur l'App Store, il s'appelle AllStore Pal, et il propose des applis gratuites, mais qui sont payantes. Enfin, il propose deux applis, pour être précis, une gratuite payante et une payante. Vous avez rien compris, c'est normal, c'est le but d'Apple, de toute façon, hein, que vous n'alliez surtout pas voir ailleurs. Et si ça vous prend quand même, de toute façon, il y aura plein d'étapes, plein de messages anxiogènes, mais bon, après, les messages anxiogènes, c'est un peu pareil sur Android, quand même, pour le coup, où il faut aller dans les réglages pour autoriser le sideloading, etc. Mais bon, pour le coup, du payant gratuit, c'est aussi logique, hein, puisque Apple impose une taxe sur les apps hors App Store, souvenez-vous. Et donc, comme Riley Testu doit pas être méga riche, hein, ben, il vous charge 1,80€ par an pour compenser. Et donc, comme vous payez le store, ben, même les applications gratuites dedans ne sont pas complètement gratuites. Et d'ailleurs, l'une est un émulateur Nintendo, un émulateur multimachine, hein, qui s'appelle Delta et qui marche avec des ROM que vous devez lui fournir vous-même. Apparemment, ça marche comme on s'y attend. Donc, mes craintes ne semblent pas fondées. On peut jouer, voilà, il suffit de fournir les ROM, ça a l'air de passer. L'autre appli du store, c'est un Clip. Ça s'appelle Clip. Et c'est un gestionnaire de copier-coller, voilà, qui est capable d'analyser ce qui se passe en arrière-plan. Donc lui, c'est un payant, par contre. Hein, voilà. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que Delta est gratuit dans l'App Store aux États-Unis, enfin, disons, hors Union Européenne. Mais il n'est pas dans l'App Store, donc dans l'Union Européenne. Il n'est que sur l'App Store PAL, ce qui veut dire que, en fait, il est payant, alors qu'il devrait être gratuit, même s'il est gratuit. Oui, je sais, tout ça est très très confus. Donc, deux applications et une procédure d'installation qui demande Bac plus 3 minimum. C'est un tout petit début, mais c'est quand même historique. Et oui, parce que quand même, les iPhones ont un magasin alternatif, et peut-être qu'on n'aurait jamais cru voir ça de notre vivant. Pod, l'histoire s'écrit devant nos yeux.
C'est beau, j'ai versé une larme.
Oui, moi aussi, surtout quand j'ai vu le mot. Bon. Mais effectivement, est-ce que tu crois, toi? Est-ce que tu crois à l'essor extraordinaire des App Store alternatifs en Europe?
Ouais, ma ligne de raisonnement, c'est que à l'époque des premiers iPhones, on pouvait les jailbreaker, ce qui permettait de faire infiniment plus de choses que ce qu'Apple permettait, puisque Apple permettait essentiellement rien.
Que dalle.
Donc là-dessus, Apple a fait beaucoup de chemin, mais justement, c'est ça le truc. À l'époque du jailbreak, il y avait un store dont le nom m'échappe aujourd'hui pour les applications qui tiraient parti du fait que comment ?
Cydia ?
Oui, exactement. Et ça hébergeait donc toutes ces applications qui tiraient parti du fait que le téléphone était jailbreaké, donc on pouvait faire énormément plus de choses que sur un iPhone régulier, entre guillemets. Le truc, c'est que tout ça a perdu de la vitesse, non pas parce que il y a plus de jailbreak, c'est toujours possible, mais l'intérêt de jailbreaker son iPhone est devenu extrêmement mineur au fur et à mesure que Apple a comblé son retard en termes de fonctionnalités. Et j'ai l'impression que il y a des chances que ça suive le même genre de parcours, c'est-à-dire que si ce store alternatif-là ne propose pas quelque chose de spécifique, alors il va avoir peu de raisons d'exister. Et au-delà de l'exemple de Cydia, il y a aussi un exemple côté Android. C'est que oui, des stores alternatifs, il y en a. Il y en a même en veux-tu, en voilà. Mais justement, il y en a quelques-uns qui vivotent et d'autres qui fonctionnent à peu près bien. Et ils ont tous ce point commun, c'est qu'ils servent un usage spécifique. Donc, évidemment, on peut penser au store de Samsung qui permet à Samsung de distribuer ses apps de façon plus contrôlée, entre guillemets, et de faire des choses qui sont possibles que sur les Samsung, voilà, ce genre de choses. On a un autre store alternatif qui est assez populaire sur le monde Android, qui lui a la particularité de n'héberger que des applications qui sont open source. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de licences d'open source qui sont acceptées, mais le fait est que ce store-là, voilà, il existe, il est populaire, il est vraiment utilisé, mais il a ce edge qui le rend extrêmement spécifique. Et j'ai pas l'impression que on va avoir ça de sitôt avec Alt Store Pal, à moins qu'ils trouvent leur edge, à moins qu'ils trouvent leur truc. Mais tu parlais de l'exemple de l'émulateur, et il se trouve aussi que Apple permet les émulateurs de jeux vidéo depuis extrêmement peu. C'est pas tiré par les cheveux de dire que c'est carrément concomitant. Et le truc, c'est que ça aurait pu être un edge que ce store-là, alternatif-là, puisse héberger des contenus que Apple ne veut pas, comme par exemple des émulateurs de consoles qui vont être des applications extrêmement populaires à l'avenir, c'est certain. Elles le sont beaucoup sur Android, et il y a même beaucoup de gens qui n'ont un téléphone Android que parce qu'il y a des émulateurs, puis il n'y en a pas sur iPhone, ce qui n'est plus le cas si vous avez suivi. Donc, pas sûr, mais il y a des façons de faire pour que ça ait un succès.
Écoute, c'est effectivement une question parce que voilà, Apple a tout fait, si tu veux, pour rendre le moins attrayant possible les stores alternatifs, hein, clairement. Et bon, AltStorePal va accueillir vraisemblablement plein de nouvelles applications bientôt, des applications open source, pas forcément exclusivement, mais bon, en grande partie, hein, c'est assez certain. Il est aussi certain qu'Epic va amener son Epic Game Store sur iOS à un moment ou à un autre, hein, très, très bientôt. Qu'on y trouvera Fortnite et qu'on pourra y trouver d'autres trucs éventuellement. Et là, on verra effectivement à quel point ça peut, à quel point ça peut prendre son essor. Donc, on verra bien à ce moment-là.
Mais je sais pas, tu vois, parce qu'ils l'ont pas fait sur Android, puis ils auraient pu le faire depuis longtemps.
Son Epic Game Store ? Oui, mais après, le cœur du problème, c'était avec Epic, c'était que justement, comme ils voulaient pas payer la redevance à Apple. Comme ils ne voulaient pas payer les frais des achats in-app, du coup, ils ont essayé d'utiliser un système de paiement alternatif, ça s'est mal passé, ils se sont fait dégager. Bon, tout ça, c'est vrai qu'il y a eu un problème avec Google aussi, hein, de toute façon. Mais bon, du coup, sur Google, ils peuvent déjà se sideloader, quoi. De toute façon, assez facilement. Sur Android, tu vois, tu peux télécharger Fortnite par ailleurs, quoi, on s'en fout.
Bien sûr, mais ils auraient pu faire un store en tant que tel.
Ils auraient pu faire un store en tant que tel, effectivement. Bah, peut-être qu'il sera, d'ailleurs, c'est même limite probable, peut-être, je sais pas, mais oui, peut-être que l'Epic Game Store finalement sortira sur les deux, je sais pas. En tous les cas, il est prévu sur iOS, et bon, avec le retour en force de Fortnite, j'imagine. Donc bon, on verra comment ça tourne. En tous les cas, nous, on va conclure l'épisode là-dessus, je pense. Merci beaucoup de l'avoir écouté à tous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, évidemment, à tous ceux qui nous laissent des étoiles sur les apps de podcast. Merci à toi en particulier, Pierre-Olivier, de nous avoir fait le plaisir de passer nous voir. Hein, et d'ailleurs, bon, alors là, je sais que t'es en cavale en ce moment, mais bon, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet quand même ?
Bah non, parce qu'on peut plus jamais rien trouver sur Internet si vous avez suivi l'épisode.
Même toi ?
Même moi. J'ai disparu.
Tu es enseveli sous l'asso ?
Absolument.
C'est terrible. C'est terrible. Peut-être que vous le retrouverez dans un épisode alors de podcast. À un autre moment, allez savoir, peut-être qu'on réussira à l'attraper comme ça au vol, je ne sais pas. En tous les cas, moi je suis Guillaume Poggiespala, vous ne me retrouvez pas la semaine prochaine, je serai absent, mais la semaine suivante, vous retrouverez votre dose hebdomadaire de Tech Café quand même, dès mercredi prochain, avec un Guillaume Vendée tout frétillant, j'en suis certain. Donc à très bientôt en tous les cas, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.